C'est pas parce que peut-être que tu n'es pas arrivé au top la première fois que tu as compétitionné que ton coach n'est pas bon.
Salut tout le monde et bienvenue sur le podcast Quantum. Je m'appelle Jacob Hamel, fondateur de Quantum Training, auteur et formateur. Notre mission avec le podcast est de vous offrir les meilleures informations sur l'entraînement, la nutrition, la supplémentation et le mindset avec des experts dans leurs domaines respectifs pour vous aider à développer votre plein potentiel. Donc n'oublie pas de liker, d'aller faire un review sur iTunes et de t'abonner à la chaîne YouTube si ce n'est pas déjà fait et que l'épisode commence.
All right, salut tout le monde, bienvenue au podcast Quantum. Cette semaine, part 2 du podcast qu'on a fait, qui est sorti il y a une couple de semaines avec Max Bissonnette, Frank Allard et Hugo Charron. Puis dans ce podcast-là, bien, on a parlé de c'est quoi les apprentissages qu'on a fait dans les 10 ans d'expérience dans le monde du bodybuilding, dans le monde du fitness. Et là, ben, je pense qu'on a eu une très bonne réponse. Les gens ont l'air d'avoir bien aimé ça. Donc, on va faire un part 2 de pousser un peu plus vers des choses qu'on n'a pas parlé, dont la nutrition, dont plein d'autres choses aussi qu'on n'a pas vraiment abordées. Et en résumé, ben, le premier, on a parlé de c'est quoi la différence entre faire du bodybuilding et être un bodybuilder. On a parlé de ce que ça prend côté plus mindset, des apprentissages en entraînement. Si vous n'avez pas écouté ça, allez voir le podcast numéro 1. Et là, on va continuer avec ça. Comment ça va, les gars?
Bien, yeah. Merci.
Yes. Ça va bien, yes.
That's it. Fait que pour faire suite à ce qu'on avait parlé, on avait parlé des apprentissages au niveau de l'entraînement. Plus mindset aussi. Puis maintenant, on pourrait aller côté nutrition. Je pense que c'est un sujet que tout le monde veut avoir des conseils sur la nutrition puis mieux faire les choses. Et j'aimerais ça savoir c'est quoi vos trucs pour garder la constance à travers les 10 ans de votre parcours. Là. Mettons, on commence avec Franco.
Je m'en allais partir. Ben, moi, je dirais le meilleur conseil que je pourrais te donner, c'est stick to the basic. Je trouve qu'il y a bien du monde qui vont t'apporter, toutes les meilleures diètes du monde vont dire comme ah là, le keto, le fasting, il y a plein de modes qui se passent en ce moment dans le monde. Ben, c'est depuis une nuit des temps, les modes, ça revient, ça part. Mais là, on est vraiment sur des phases de keto, de fasting, comme je te dis. À un moment donné, la recette n'est pas magique non plus. Il y a des façons de pouvoir bien faire un cycle d'entraînement puis une progression au niveau de ta nutrition pour bien vraiment suivre ton métabolisme, comment est-ce qu'il va. Mais avec le temps, je trouve que c'est ça qui arrive. Des fois, on dirait que les gens se compliquent un peu trop la vie puis ils veulent en faire toujours davantage, mais c'est pas parce que tu compliques ça que c'est mieux. Tu sais, ton fameux là, carbs, lipides, tes protes puis tes légumes, là, ça reste la base. Puis, tu sais, on va juste jouer avec ça tranquillement. Quand on s'en va dans un off-season versus une prep, ça reste qu'on manipule ça légèrement. Puis, tu sais, c'est progressivement qu'on fait ça. Mais je trouve juste que peut-être qu'avec le temps, je remarque qu'il y a trop de modes puis de gens qui partent sur des courants de pensée que, ah, ben c'est rendu la meilleure chose. Tu sais, on a le vegan, le fameux vegan qui est sorti avec Game Changer. Puis je repars pas là-dessus parce qu'on pourrait parler longtemps. Mais c'est ça qui arrive, c'est que les gens ne pensent pas que ces trucs-là, c'est pas nécessairement bon pour tout le monde. Une keto, ça peut être bon pour quelqu'un qui s'entraîne pas, à vrai dire. Ça peut être bon pour quelqu'un, mais pas nécessairement pour toi. Fait que la nutrition, c'est vraiment personnalisé à chaque personne, mais ça reste que c'est simple, pareil. C'est pas non plus hyper compliqué. À moins que tu aies des problèmes de santé. Mais si quelqu'un qui est en santé, qui va bien, qu'il n'y a pas de problème autour. Tu sais, quand on a couvert le sommeil, tout ça, tout le système digestif, quand tout est correct, c'est pas compliqué. C'est quand on a des problèmes que là, oui, OK, il faut avoir beaucoup plus de connaissances pour savoir quoi manipuler pour aider la personne. Mais avec le temps, moi, ce que j'ai appris, c'est juste que, honnêtement, quand tout va bien, tu augmentes tes carbs, tu sais, tranquillement, puis un off-season, ça fait quand même facilement. Mais les gens vont être un petit peu plus, je trouve, dans des courants de pensée des fois parce que Netflix a sorti quelque chose ou parce qu'il y a un influenceur sur Internet qui dit qu'il est rendu sur la keto et que ça l'a tellement changé, mais c'est pas ça la réalité. Peut-être que pour lui, ça a fonctionné, mais toi, ton corps, c'est pas ça. Ça revient à ce qu'on disait sur l'entraînement. Tu sais, ce que les autres vont appliquer, ça veut pas dire que ça s'applique pour toi nécessairement. Fait que, tu sais, c'est quelque chose qui est très personnalisé et qui va se modifier dans le temps. Tu sais, moi, mettons, je vais prendre une prep que j'ai faite il y a 5 ans pour une compétition. Hey, c'est vraiment pas la même chose que ce que je fais là. De un, mon poids a changé, j'ai pris du poids, fait qu'on va augmenter les quantités, il y a des choses qui vont se modifier. Est-ce que mon métabolisme réagit de la même façon quand que j'étais, je sais pas, il y a 5 ans versus là? C'est sûr que mon corps change. Mon système hormonal, tu sais, aussi, ça va changer. Ça joue aussi avec le sommeil. T'sais, des fois, tu es plus fatigué, tout ça. Tu peux manipuler ça un peu aussi. Mais c'est juste que j'ai l'impression que je rends ça compliqué. Je dis que c'est le basique, puis je rends ça compliqué. Mais je trouve juste que les gens vont peut-être, je vais résumer ça, hein, les gens vont s'en aller vers des courants de pensée, alors que la nutrition, c'est très, très, très personnalisé. Je pense que c'est ça.
Oui, c'est intéressant de. Parce qu'il y a beaucoup de monde qui veulent manger comme des pros. OK? Fait qu'ils sont comme, moi, je vais faire la diète de Jay Cutler à 1000 grammes de carbs par jour. Mais tu parlais que. En fait, tu parlais d'adaptation métabolique à travers le temps, mais c'est que le métabolisme va s'adapter à ce que tu lui donnes. Puis c'est pour ça que c'est important après y compter, puis on en reparlera peut-être tantôt, mais tu sais, de modifier l'alimentation progressive. Pas de recommencer que tu manges 2000 calories, de remettre 6000 calories, puis d'y aller progressif parce qu'il faut que ton métabolisme s'adapte. Puis ça revient à l'humain est une créature d'adaptation. Quand que tu chassais, il y avait un mammouth, tu mangeais le mammouth le plus que tu pouvais. Tu restais là pendant 2-3 jours à goinfrer du mammouth, puis après ça, bien, tu repartais. Tu ne mangeais pas pendant 10 jours, peut-être à un certain moment donné, tu mangeais des racines. Puis là, bien, ton métabolisme, quand tu mangeais beaucoup, il augmentait pour utiliser l'énergie, puis quand il n'y a plus de bouffe, bien, il s'adapte à la baisse, puis il utilise moins d'énergie pour la survie, tu sais, puis c'est intéressant, Maxime Saint-Onge, je suis un gars que j'ai déjà eu sur le podcast, il fait beaucoup d'études là-dessus, puis l'autre jour, il a fait une formation pour l'Académie Quantum, allez voir ça, quantumtraining.ca, shameless plug, dans le fond, dans la formation, il expliquait que les gens qui sont plus pesants ont un métabolisme basal plus haut, c'est normal, parce que plus tu es pesant, plus tu vas dépenser d'énergie dans ta journée, mais que ce soit en gras ou en gras ou en muscle, ton métabolisme basal il est plus haut. Ça veut dire que quelqu'un qui est obèse a un métabolisme qui est rapide, en fait, tu sais, qui est plus haut que quelqu'un qui est plus maigre. Fait que je pense qu'il y a comme une grosse malinterprétation de ce que c'est le métabolisme, mais il faut savoir qu'il s'adapte avec le temps. Fait que, comme tu dis, Frank, ce que tu as fait il y a 5 ans et ce que tu fais là, c'est complètement différent parce que tout a changé puis ton métabolisme s'est adapté à manger progressivement plus, ton poids corporel a monté puis tout s'adapte. Puis c'est comme si c'était bon, c'est pas compliqué, mais c'est simple, mais c'est de l'adapter progressivement. Puis c'est ça qui, des fois, qui est un peu plus touché avec certains clients.
Ce que je pourrais faire comme comparaison, comme que tu parles, c'est moi, je fais tout le temps la comparaison entre des véhicules. Tu prends une Toyota Tercel, tu prends une Ford Mustang, pas même genre de moteur. Le moteur dans la Ford Mustang est beaucoup plus gros, va brûler plus de gaz, va prendre plus de gaz versus une Toyota Tercel. Est-ce qu'on va faire la même chose pour les deux? On va-tu mettre la même consommation d'essence dans les deux? Est-ce qu'il y en a un qui va mettre du suprême et l'autre va mettre du ordinaire? Ça aussi, tu sais, c'est une bonne comparaison, je trouve, à faire pour comprendre le principe du métabolisme aussi.
Mm-hmm. Oui, 100%. Puis. Sinon, c'est quoi vous avez appris autre de stick to the basic?
C'est que ça se fait pas du jour au lendemain, comme vous en avez déjà discuté. Tu sais, si je me souviens, mettons, le plus loin, mettons, depuis plus que 10 ans, en fait, quand j'ai commencé vraiment au début, je me souviens, j'étais sa diète de prise de masse, puis je mangeais genre 4 toasts pain au lin avec 5 pilules oméga-3. Puis je faisais sûr de mettre du beurre de pinot naturel là-dessus. Puis ça, ça allait me faire prendre de la masse. Puis si j'avais de la place, je prenais du weight gainer. Puis c'est sûr qu'éventuellement, ça allait évoluer vers autre chose. Ce que je veux dire par là, c'est que la nourriture, êtes-vous d'accord pour dire qu'au niveau culturel, c'est quelque chose avec lequel on se récompense énormément? Puis ça implique, comme on a pu parler l'autre fois justement, ça implique beaucoup, beaucoup la partie de notre cerveau qui est émotionnelle. Fait que c'est difficile avec la nourriture de sticker sur un plan précis puis d'aborder, mettons, une nouvelle pensée, une nouvelle... Tu sais, carrément changer de la culture que tu as autour de la nourriture du jour au lendemain. J'ai réalisé que c'est comme un deal que tu fais avec toi. Il faut que tu te parles énormément, puis il ne faut pas que tu sois trop dur au début quand tu commences. Parce que trop souvent, peut-être les gens qui commencent vont être « OK, là, lundi matin, je commence de même, j'ai le papier, j'ai fait ma commande, j'ai cuisiné, on part, let's go. Ça, c'est ultra strict, mais tu n'as pas laissé le temps à ton cerveau de comprendre ce qui se passe. Tu n'as pas laissé le temps, mettons, comment je pourrais dire ça? Il y a une adaptation qui ne s'est pas faite, puis c'est sûr que tu vas te planter au début, puis c'est sûr que ça va être difficile. C'est sûr que tu vas te trouver des excuses pour ne pas le faire. Et c'est avec le temps, à un moment donné, que tu vas être capable de suivre 3 repas par jour, et ça, même quand tu as eu un imprévu. Puis c'est de cette façon-là qu'à un moment donné, tu vas rentrer le 4e repas et le 5e, voire même le 6e ou plus, on ne sait pas. Mais ça ne se fait pas du jour au lendemain. Il faut y aller doucement. Tu ne peux pas, comme Jacob dit, passer de « j'ai jamais diété » à « ah ouais, moi, je mange en style. Moi, quand je mange 2 assiettes. Je suis un gros mangeur, puis il n'y aura pas de problème. » Ça ne fonctionnera pas. Il faut que tu sois à la base conscient qu'il y a un prix à payer pour changer la culture que tu as, la pensée que tu as autour de la nourriture. Puis que c'est ça, justement, tu dois te donner, moi, je dis au moins facilement 1 an avant de... C'est comme, tu sais, comment je pourrais dire ça? C'est comme quand tu rentres dans ta voiture. La première chose que tu fais, c'est que tu mets ta ceinture, tu embrayes ton char, puis tu recules ou tu avances. Ça, tu n'y penses plus à ça. Mais au début, c'est des étapes auxquelles il faut que tu penses. Puis c'est des étapes qu'il faut que tu prévois, puis tu n'es pas à l'aise nécessairement quand tu commences à conduire. Mais en nourriture, c'est la même chose. Quand, au niveau de la nutrition, ça prend du temps. Puis, il faut que tu sois patient. C'est à peu près ça.
J'aime ça où ce que Hugo est allé, parce que dans le fond, moi, si je me rappelle, moi aussi, quand j'ai commencé, tu vas intégrer, mettons, plus de protéines, tu vas aller chercher des carbs. C'est pas tout le temps, mettons, la meilleure qualité. Là, tu parlais de toast, là, moi aussi, je me souviens, là, des pâtes, des choses comme ça. Puis, c'est pas mal. Là. Mais c'est qu'au travers les années, tu peux toujours upgrader ce que tu vas consommer comme nutrition. Moi, je pense que c'est ça qui est intéressant de où est-ce que j'ai commencé, de où est-ce que je suis à cette heure, non seulement au niveau des ingrédients que je vais manger, mais même au niveau des cheats. Quand tu commences, les cheats, c'est... Moi, je me rappelle, là, je veux dire, une boîte de 12 beignes, c'était pas rare, là, c'était à toutes les semaines avec le McDo. Puis c'est tellement plus ça, on est capable à cette heure. C'était chez Jacob, on s'est fait... bavette de bœuf, des patates, c'est un souper qui est délicieux puis qui est peut-être pas diète, là, plan alimentaire précis, mais c'est très satisfaisant. C'est bien moins inflammatoire que ce qu'on aurait été chercher, mettons, dans notre plus jeune temps. Là, moi, c'est là que je suis rendu un peu plus à essayer d'upgrader, d'avoir des aliments soit plus sains, plus purs ou bio. Les cheats, d'aller avec quelque chose qui va me satisfaire mentalement puis qui affectera pas au niveau digestif ou, tu sais, parce qu'au niveau, si tu veux bâtir du muscle, on s'entend, là, si ta digestion est bonne, tu risques d'avoir plus de résultats. Et c'est ça, c'est que ça se fait vraiment sur, tu sais, sur 13 ans, là, je me rappelle les 5 premières années, j'ai jamais pesé ce que je mangeais, là, c'était un peu, mais ça s'est toujours upgradé tranquillement jusqu'à là où est-ce que, tu sais, je sais que je mange bien. Tout ce que j'essaie de faire là, pour c'est manger plus de légumes, là, c'est peut-être mon hic à moi, là, je parle personnellement, là. Mais c'est ça. Faire ça graduellement, penser à long terme, puis toujours penser à aller peut-être vers ce qui est qualité le plus possible là, pour maximiser ce qui est digestion, absorption. Là. Pour moi, c'est ça en gros. Hein.
Tout à fait.
Ah, c'est bon, ça. J'aime ça l'imager comme une pyramide, puis souvent le monde va focusser sur ce qui est dans le top de la pyramide, qui est les suppléments. La qualité des aliments. Tu sais, fait qu'ils vont dire, je mange bien. Puis, on a une cliente récemment que, parce qu'on se ramasse une fois par semaine toute l'équipe, puis on parle des fois des cas de clients qu'on a. Et là, il y avait une cliente qui ne perdait pas de poids et elle mangeait bien, elle suivait son plan, puis tout ça. Puis là, quand le coach a commencé à questionner, elle mettait de l'huile d'olive dans sa salade. Puis là, elle disait, je mange 2 salades par jour. Et comme, OK, qu'est-ce que tu mets dans ta salade? Puis, finalement, elle mettait de l'huile d'olive, mais elle mettait de l'huile d'olive. Finalement, elle mettait, là, il a dit, ben, calcule ton huile d'olive que tu mets, puis elle mettait 4 cuillères d'huile d'olive. Oh, 15 millilitres, fait que ça fait genre une affaire comme 500 calories d'huile ou 600 calories d'huile qu'elle mangeait dans sa journée, puis la personne voulait perdre du gras. Fait que, tu sais, malgré que sa qualité d'aliment était bon, c'est comme un moment donné, la base de la pyramide, à la base, c'est l'adhérence. T'sais. C'est que c'est d'être capable de le faire sur un long terme. Puis, comme Max disait, dans le temps, mais c'était moins, le 10 ans, mais c'était moins bon, mais ça a fait en sorte que là, progressivement, ça s'est amélioré. Quand on allait manger du Subway après le workout de jambes chez O'Brien, puis tu sais, c'est correct. Mais tu sais, progressivement, ça s'est amélioré. Fait qu'il faut vraiment que le monde, je pense, qu'il focus sur, comme Frank disait tantôt, la constance puis l'adhérence. Puis après ça, tu as ton nombre de calories que tu manges, après ça, les macronutriments, puis après ça, la qualité des aliments. Mais tu sais, de voir ça en perspective, que ce qui est important, c'est de le faire pendant longtemps, puis d'être constant avec ça. Puis des nouvelles trends, comme Frank disait, de keto, whatever, oui, ça peut fonctionner, tu sais, mais ça va être l'adhérence qui va faire une différence.
Tu saches ce que tu veux. Qu'est-ce que tu veux aussi? Ce qui arrive, c'est que tu peux manger santé. Tu peux juste manger, tu sais, je veux dire, ça dépend. En bodybuilding, tu peux manger santé. Il faut que tu manges beaucoup de choses qui sont santé. Ça devient peut-être problématique à un moment donné où. Quand tu es rendu, crème qu'il faut que tu manges, mettons, 6000 calories, c'est ben, peut-être 6000, c'est pas tout le monde qui se rend là, mettons 4500, 5000 calories par jour de bonnes choses, hey, c'est dur de se rendre là. C'est pas de n'importe quel métabolisme qui est capable de procéder cette nourriture-là, et pas juste une fois par semaine. Là. On parle de 6 fois et demi par semaine. Là. Je veux dire, c'est quand même un gros engagement à avoir. La nourriture n'est plus le moment de la journée où tu relaxes, n'est plus le « Ah, oh, j'ai hâte de manger les leftovers d'hier, là, Colin, qui était bonne, la lasagne, là, j'ai une journée de marde, ça va être bon dans la bouche. » La relation que tu as avec la nourriture en bodybuilding change. Fait que le contrat que tu as avec toi-même par rapport à ta bouffe change. Ma bouffe? Ben, je veux dire, si t'aimes pas la viande, si t'aimes pas les œufs, si t'aimes pas les légumes, si t'aimes pas le riz, si t'aimes pas les patates, ah, là, je sais pas quoi te dire. Je suis désolé, là. C'est dur, mais il faut que ça devienne une étape de ta journée dans laquelle ça sert à ton développement physique. C'est plus genre, comme je disais, j'ai hâte au souper, miam, 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 ça va faire du bien, les employés puis les clients n'ont pas été gentils aujourd'hui, je vais me récompenser avec de la bonne bouffe. C'est fini, ça, cette étape-là. Ta bouffe est rendue un outil qui est en fait l'outil de ta progression. Et c'est ça qui fait aussi que le bodybuilding, c'est quand même assez particulier comme sport parce que, je veux dire, tous les sports de longue haleine, là, les sports comme le triathlon, le vélo de route, les coureurs de longue, longue distance, je pense qu'eux ils ont peut-être certaines petites similarités là, avec le bodybuilding. La diète, elle est tellement importante. Puis, les autres sports, mettons, je ne sais pas, oui, il faut diéter, mais je pense qu'ils sont moins stickés sur la diète au gramme près ou la diète au plus ou moins 100 calories par jour près, tu sais. Fait que c'est un gros engagement quand on rentre en bodybuilding de commencer un plan alimentaire parce que ça prend pas mal toutes tes journées. Je veux dire, tu sais, Francis, tu le fais en ce moment même, tu le fais à l'année. À chaque combien de temps tu penses à ton sport? À chaque combien de temps tu penses à mon lunch dès que j'ai fini ça? Oups, c'est le temps de manger. Oh, avant d'aller là, je vais manger. Ah merde, j'ai rien à manger. Hey, j'ai
ça arrive pas. Ça arrive pas, ça, Big. Faut pas que ça arrive.
Ça arrive plus?
Non, mais je veux dire, quand tu es rendu dans le sport à un certain point, c'est pas supposé arriver. Ce que je veux dire, c'est que tu le sais. Puis tu montais ça aussi, mais tu pars le matin. Dans ton sac avec tous tes lunchs.
Ça. Mais il faut que tu penses au moment où tu vas manger. T'sais. Il faut que tu laisses la place à ça. C'est pas quand je vais avoir le temps, je mangerai. C'est tout le temps, oh shit, faut que je mange, je m'en vais m'entraîner. Oh, hey, Colin, peut-être faudrait que je mange mon meal. Là. T'sais, quand mettons, tu travailles comme policier, quand tu as un temps mort, est-ce que tu fais comme là, je vais en profiter, c'est là que ça rentre. T'sais. Je veux dire, ces courants de pensée-là, ces automatismes-là arrivent super. C'est constant. Je veux dire, tu es toujours en train de mettre en priorité. La nourriture.
Exactement. Mais tu sais, si je peux enchaîner, peu importe ce que je vais faire dans ma journée, le plus important, c'est de rentrer mes repas. Mm-hmm. Je pense que, tu sais, on parle d'entraînement, on parle de nutrition. Je dis toujours que si tu n'as pas le temps de t'entraîner, si mettons tu es pressé dans ta journée, tu es bien mieux de skip ton training, de dormir comme il faut puis de manger vraiment tous tes repas. Parce que les gens vont sous-estimer de beaucoup la nourriture. La nourriture, là, c'est ce qu'il y a de plus anabolique que tu vas pouvoir mettre dans ton corps. Fait que, tu sais, ça me fait emmener d'un autre côté, depuis tantôt que tu sais, j'écoute ce que vous dites, puis c'est au niveau de la pyramide, ce que tu dis, Jake, c'est tellement vrai, parce que tu sais comme moi, les nouveaux clients vont venir te voir, puis là, tu fais l'évaluation, puis je pense que la première affaire qu'ils vont dire, c'est « Ah, je prends la créatine, je prends la vitamine, je prends ci. » Là, ils t'énumèrent tous les suppléments qu'ils prennent, mais le gars, il mange à peu près ce qu'il pense qui est bon, il ne mesure rien. T'es comme « Big, pour vrai, lâche tout ce que tu prends comme supplément. » On appelle ça un supplément, fait que tu sais, pourquoi tu prends ça si ton alimentation est de la merde? Fait que commence par avoir une alimentation qui est sur la coche. La journée que tu vas peser tes choses, là, puis que quand il y a un gramme de plus sur ta pesée, que tu l'enlèves, prends tes suppléments. Moi, c'est ça que je trouve qui est... Depuis, tu sais, j'ai passé par là, tu sais, à 16 ans, là, ma mère, elle m'avait trouvé mon pot de créatine dans ma chambre, là, puis c'était la fin du monde. Là. Mais tu sais, j'avais toujours besoin de la créatine à ce moment-là, pas vraiment pour vrai, parce que je faisais pas mes affaires, je mangeais tout ce que je pouvais, puis c'est sûr que oui, ça m'a aidé un petit peu. Mais l'unique priorité dans tout ça, dans la pyramide, c'est pas tes suppléments qui sont ici à la pointe, là. C'est ton alimentation. Quand ton alimentation va être sa coche, viens me voir pour parler de suppléments. Puis ça, je trouve ça déplorable parce qu'il y a gros des ben, tu sais, je veux pas bâcher contre des coachs ou que ce soit, mais il y a beaucoup de personnes qui vont venir, puis je leur regarde leurs affaires. Tu as 20 sortes de suppléments. T'es là, tabarnak, tu peux-tu? Je peux pas croire, d'un, tu peux te payer ça. C'est comme 500$ de suppléments par mois. Mais prends-toi 500$, là, puis va le mettre dans de la bouffe bio, puis dans des trucs qui sont bons pour. Pourquoi tu vas grossir bien plus? C'est pas ta glutamine qui va faire que tu vas prendre 20 livres. Là. C'est pas ça. Fait que, tu sais, au bout du compte, la pyramide est super importante à retenir. Puis ça, Jake, là, pour vrai, c'est que tout le monde retienne ça. Mais c'est ça. Moi, c'est ce que je trouve, c'est que le monde sous-estime la nutrition, l'alimentation. Puis quand tu vas voir quelqu'un qui est gros, la première affaire qu'ils vont faire, c'est que oh, le gars, il est sur le jus. Putain, c'est sûr qu'il est sur le jus, là. Ouais, mais attends un peu une minute, là. Est-ce que tu l'as suivi dans une journée? Est-ce que tu sais qu'est-ce qu'il fait, ce gars-là, dans une journée? Quand il se lève, qu'est-ce qu'il fait? La première affaire que je fais quand je me lève, là, c'est aller manger. Je me lève, je vais manger tout de suite parce que je ne veux pas m'enlever trop, je ne veux pas manger trop tard parce que je sais que si je mange trop tard, tout va décaler de ma journée, je vais me coucher trop tard parce que j'ai retardé un peu de manger ici. Fait que je me lève, tout de suite, je pense bodybuilding, je pense ma bouffe, ma nutrition. Puis là, je pars, mon countdown, il part pour mes 7 repas. Fait que, est-ce que tu me suis dans ma journée? Là, je m'en vais finalement, j'en vais travailler. J'ai un appel d'urgence. Je suis passager dans mon auto. Puis là, je sais que je m'en vais sur cet appel-là. Je fais comme « fuck, il va falloir que je sois pendant une heure sans manger. » Fait que là, dans mon coffre à gants, j'ai tout le temps mon lunch. J'ouvre le coffre à gants, je prends mon lunch. Pendant que je suis en urgence, je mange mon lunch. Je suis sur l'ordi en train de faire des retours. Je continue à manger mon lunch. Mon chum, il roule de même. Fait que je suis en train de me faire trimballer d'un bord puis de l'autre. J'échappe un peu de riz. Je suis tabarnak, je prends une riz, je le remange. Je me dépêche, ça, c'est ma réalité. Est-ce que tu fais ça, toi? Tu fais-tu vraiment ça? Si tu fais ça, honnêtement, tu vas avoir des résultats. Fait que là, tu ne pourras pas bâcher et dire comme « Ah, lui, il est sur le jus. Hein, lui, est... Tu ne pourras pas faire ça. Parce que si tu fais ça, tu vas comprendre, tu vas faire comme « Hey, pour vrai, c'est tellement dur ce que je fais là que je comprends pourquoi j'ai des résultats. » Quand tu es rendu là, tu peux prendre des suppléments.
Je pense qu'il y a une distinction à faire entre les gens qui veulent être en shape puis bien manger puis se sentir bien dans leur peau puis ceux qui veulent optimiser tout, genre, puis être vraiment au maximum de leur performance puis leur compétence, tu sais. Puis, tu sais, c'est bien la mode maintenant, l'alimentation intuitive, de ne pas calculer tes trucs. Mais c'est correct si tu veux être en santé, te sentir bien dans ta peau puis avoir un peu de résultats. Mais si t'es comme, t'as des objectifs extrêmes, que t'es comme, hey, pour vrai, moi, je veux... Je sais pas, on va prendre un exemple de quelqu'un, il a 38 ans, puis il est comme, moi, à 40 ans, je vais avoir la meilleure shape de ma vie. Mais il va falloir que tu fasses qu'est-ce qu'il faut pour te rendre là. Tu sais, si t'as pas une génétique qui est incroyable, bien, il va falloir que tu travailles encore plus fort, puis ça va là. Fait que c'est bon que tu mettes ça en perspective, que la barnouche, ça peut être extrême, qu'est-ce qu'il faut que tu fasses pour te rendre à des résultats extrêmes.
Là. Oui, puis c'est parce qu'on parle vraiment de bodybuilding, c'est pour ça, si on parlerait de, comme tu dis, de mode de vie sain, puis. T'sais, de juste s'entraîner pour se sentir bien, c'est totalement différent. Là. Je ne dirais pas de faire ça. T'sais, de manger en bodybuilding, manger comme un bodybuilder, est-ce que c'est vraiment sain? Les quantités de viande qu'on mange, tout ça, c'est pas sain. On va se le dire tout de suite. Là. C'est pas ce qu'il y a de mieux pour ta digestion, c'est pas ce qu'il y a de mieux. Mais si tu veux atteindre un certain niveau, comme tu dis, il faut que tu ailles à l'extrême. Mais si on parle de santé, on parle de bien-être, je n'aurais pas ce même discours-là. Tu vas pas dans ton
corps. Mais ça, on parle, tu dis que. C'est pas bon. Mais sans perspective avec l'alimentation traditionnelle nord-américaine. T'sais. C'est ouais. Pas mieux de faire ça que de boire 3-4 bières en arrivant de travailler le soir, de manger de la lasagne, de, Il y a comme plein d'affaires qui est mieux que l'ordinaire, là, si on veut, que la majorité des gens. T'sais, le nombre de sucres transformés qu'une personne nord-américaine moyen mange dans sa journée. Manger un kilo de viande, c'est sûr, un kilo de viande par jour, c'est pas le best, mais je pense qu'à un moment donné, c'est comme tu choisis sur quoi que c'est moins bon un peu. Là,
tout à fait. Parce que dire que la personne qui va manger un kilo de viande par jour puis qui rentre toute cette nourriture-là, je veux dire, il prend cette quantité-là puis il va aller au gym puis il va faire quelque chose avec ça. T'sais, c'est pas comme si je mangeais plein de viande puis plein de bouffe puis je bougeais plus après. Là. Il y a quand même une transformation qui se fait à partir de là. Puis manger beaucoup de bonnes choses. Comme tu dis, Jacob, c'est mieux que manger comme la nourriture traditionnelle nord-américaine, dans laquelle, by the way, demande à quelqu'un, est-ce que tu manges bien, toi, ou tu manges pas bien? Moi, je mange bien. Ah ouais, comment ça? Moi, je trouve que tu manges pas bien. Tu trouves que je mange pas bien? Ben, je m'excuse, là, mais je mange pas de la poutine à chaque repas, puis je bois pas 2 bouteilles de coke par jour. OK! Fait que c'est ça, toi. C'est à ça que tu te compares. La poutine à chaque matin, de la poutine à chaque jour, puis de la liqueur à chaque repas. Ben, c'est sûr que si c'est à ça que tu te compares, oui, tu manges bien. Mais en général, si tu es moindrement informé, intéressé ou que tu t'es cultivé un peu sur ce qui est la nourriture qui est bénéfique pour toi, je pense que n'importe qui se rendrait compte que la nourriture traditionnelle nord-américaine, elle n'est pas si santé que ça. Et je pense que pour certains, leur physique peut en témoigner.
Je peux rajouter quoi?
Vas-y Max.
Ben, je voulais juste rajouter, dans le fond, que si quelqu'un qui va optimiser, là, c'est assez simple, là, mais la préparation d'avance, tu sais, je vous le faites tout, là, je suis sûr, là, Frank, on a tous des horaires chargés, là, infirmiers, policiers, toi, Jacob, qui est ta business, moi, camionneur, je ne sais jamais à quelle heure que je finis. Fait que je m'allonge pour être préparé. Tu parlais de la lunchbox, Frank. Tu as tous tes lunchs. S'il faut, j'en amène un de plus. S'il arrive une bad luck, j'ai ce qu'il faut. Je ne suis pas anxieux de ne pas avoir ma nourriture ou mon repas. J'ai même une petite boîte à lunch chauffante. Je peux tout le temps manger chaud. Mais d'être prêt, trouve-toi un temps dans ta journée. Si c'est une heure et demie, là, faire les repas. Là, moi, ce que je fais, là, j'ai souvent des repas faits pour à peu près 2 à 3 jours. Parce qu'il y a plus que ça, ta viande est moins fraîche, c'est moins intéressant. Là. Mais le fait d'être préparé d'avance, je pense que c'est un gros outil. Là. Garde-toi une heure et demie, fais cuire ta bouffe, puis il n'y en aura pas de surprise. Là. Tu vas tout le temps être prête. Si tu ne manqueras pas de repas, c'est assez simple. C'est un des points que je voulais amener. Là. C'est rapide, là, mais c'est de se préparer tout le temps.
Il doit y en avoir, je ne sais pas moi, 15 ou 20 ou plus que ça, des compagnies aussi qui te préparent leur nourriture et qui te spécifient, tu veux-tu 100, 150 ou 200 grammes de viande dans tes affaires? Mais tu peux faire un deal avec eux autres, faire des petites demandes spéciales, j'imagine, adapter ça à tes besoins, puis tu dis, écoute, je vais le payer le 80-90$ de plus par semaine que ça va me coûter de plus, puis je vais les faire venir, mes lunchs, ils vont arriver dans une belle boîte réfrigérée en avant de ma porte, puis il n'y en a plus d'excuses, là, tes repas, là.
Là, on parle de bodybuilding, je vais ramener ça au bodybuilding.
Ouais.
Toi, Hugo, tu es dans une prep, mettons, tu fais-tu affaire avec une compagnie de lunch?
Non, jamais.
Quoi?
Parce que je leur fais pas confiance.
Ben, moi, c'est
pas
ça.
Parce qu'ils sont pas bons, puis c'est pas parce que c'est pas de la qualité, puis c'est pas parce que. Bref, c'est nul autre. C'est parce que en compétition, je veux dire, t'es tellement. Tu deviens tellement un peu maniaque, puis tellement extrême à l'endroit où tu veux apporter ton corps puis ton mental. Que je ne peux pas permettre à quelqu'un d'autre de s'occuper de mes affaires, malheureusement. Puis ça se peut que sur une chaîne de production, ton lunch aille 190 grammes de bouffe. Puis ça se peut qu'il l'aille peser quand il était cru et non quand il était cuit. Puis c'est correct qu'il fasse ça, là. C'est pas grave. Tant mieux pour eux autres, mais en compétition, il faudrait vraiment que je sois peut-être plus proche de ces gens-là ou que je sois sûr à 100% que c'est exactement comme je le ferais pour faire confiance, mettons, à une compagnie qui prépare les lunchs pour les clients.
Moi, où ce que je veux en venir, c'est que, tu sais, Je dis pas que jamais je vais faire affaire avec une compagnie de nutrition, jamais. Sauf que le jour où je vais faire affaire avec une compagnie de nutrition, chaque fois que je recevrai mes repas, je n'aurai pas le choix au début. Je vais faire peser mes choses parce que, comme tu dis, c'est tellement précis le bodybuilding que je ne veux pas avoir 5 grammes de plus. Je vais avoir le nombre de grammes que j'ai demandé. Fait que le jour où je vais faire affaire avec une compagnie, si ça arrive un jour, c'est ça qui va se passer. Parce qu'en ce moment, j'ai juste confiance en moi pour ce que je fais. Parce que je sais que quand je mets ça sur la balance, c'est cuit, c'est tant de grammes, c'est ça, d'acide d'acide, il n'y a pas d'un petit peu d'huile d'olive, il n'y a pas de résidus de ça. C'est strictement ce qui est là. C'est parce qu'on parle de bodybuilding, mais il faut être freak. Si tu veux avoir des résultats, tu vas avoir les fesses striées. C'est pas malheureusement en y allant à peu près. C'est quand tu vas être précis dans tes choses. Puis plus que tu es précis dans ta nutrition, plus qu'ici, tu vas être mindé puis tu vas te dire comme, hey, chaque petite affaire est tellement calculée que je ne peux pas progresser puis pas réussir puis pas être au meilleur. Fait qu'il n'y a pas juste le fait de c'est ce que j'ai demandé que sur mon plus, c'est le fait qu'il faut que ce soit ici que ça se passe, là, que tu sois tellement mindé que c'est ce que tu as besoin, c'est ce que c'est écrit sur ton plan, c'est ça qui est dans ton plus. Fait que c'est un peu, c'est pour ça que, tu sais, je bâche pas en tout contre les compagnies, c'est pas ça. Je parle juste en prep vers la fin. Puis je connais très bien du monde qui font affaire avec des compagnies qui font leur repas. Mais justement, ils ont une entente, puis eux autres, ils calculent, puis ils font des tests de temps en temps, puis oups, ah là, je l'avais un petit peu plus. Fait que là, les gars, les compagnies, ils sont plus stricts avec, mettons, cette personne-là. Mais il faut que ça se fasse comme ça, parce que sinon, si tu achètes ça, c'est sur une compagnie, puis tu as des différences de 10-15 grammes, à un moment donné, ça sera plus précis, puis ton coach ne pourra pas te suivre adéquatement.
C'est ça qu'on amène le sujet de un 5 grammes de plus de riz. Qu'est-ce que ça change au bout du compte? Point de vue, je sais la réponse, mais point de vue, tu sais, si tu arrives sur stage, tu sais, comme big picture, là, de mettre 5 grammes à tous les jours de plus, comment, qu'est-ce que ça vous amène à passer?
Je veux dire, si tu te trompes de ça une fois par jour en essayant de peindre le plus beau tableau de ta vie puis que tu as peinturé pendant 30 jours, bien, ça fait 30 petites erreurs comme ça. Fait que ton tableau ne sera pas beau comme tu aurais pu le présenter. Ça, c'est mon premier argument. Ou bien dire, ben oui, mais c'est juste ça de moins ou ça de plus. Bien, tu peux penser à ça de te taper le doigt avec le marteau. T'sais. Ça va faire une grande différence aussi. Fait que les ça, à long terme, ça fait beaucoup de choses. Premier argument. Deuxième argument. Quand tu t'embarques dans une compétition, c'est exigeant. C'est exigeant mentalement, c'est exigeant physiquement et tu souffres. Tu souffres beaucoup. Tu souffres pas de « je suis un gros bébé là-là puis j'ai hâte de manger ma crème glacée ». Tu souffres de « j'ai pas de glucides puis mon cerveau envoie des signaux qui sont importants à mon corps qui demandent de se nourrir et tu fabules sur la nourriture parce que ton corps demande de se nourrir parce que ton taux de gras descend trop bas par rapport à ce qui est pour lui normal ou qui est vivable en fait, hein, parce que si on vivait dans le bois à 2 % de gras, 3 % peu importe, tu ne survis pas longtemps dans ton clan. T'sais. Fait que là, il y a probablement une certaine partie du cerveau qui a encore peur de mourir quand ton taux de gras descend trop. Fait que c'est normal que tu sois en mode souffrance. Mais ça, il faut que tu endures ça pendant des semaines, en plus de ton mode de vie, en plus des choses que tu ne contrôles pas, puis en plus de tes trainings. C'est très, très, très souffrant, tu sais. Fait que la raison pourquoi tu souffres, tu veux que ça vaille la peine. Puis si c'est pas pour gagner que tu le fais, si c'est ça peut être que pour gagner ou ça peut être parce que tu veux amener le meilleur de toi-même, je veux dire ça, c'est beaucoup. Pour toi, c'est beaucoup. Puis d'un coup que, je sais pas moi, tu finis deuxième, mais tu sais que tu aurais pu le battre là-bas. Mais qu'à chaque fois que tu dis « Pourquoi j'ai perdu? Je comprends pas. J'étais plus en shape que lui. » Mais il y a toujours l'image de, au lieu d'une cuillère de beurre de peanut avant, avec ton dernier repas, c'était deux parce que tu avais trop faim. Tu vas dire « J'ai mangé au moins 40 maudites cuillères de beurre de peanut de plus. » Tu vas le savoir que c'est de ta faute. C'est plate dans ta barouette de savoir que tu n'as pas tout fait ça pour rien, mais que tu aurais pu être meilleur. Parce qu'en bout de ligne, là, tu ne souffres plus à la fin, là, je veux dire. Tout est correct, tout est normal, mais tu as comme manqué ta chaîne. T'sais. Fait que, qu'est-ce que ça fait ça de plus ou de moins? Ça fait beaucoup. Et tu le fais pas ça. Tu le fais ou tu le fais pas.
De toute façon, là, ta cuillère que tu vas prendre de plus, là, tu vas être vraiment plus rassasié. Tu sais, mais quand même bien que tu t'es dit que tu as faim, là, puis tu prends une cuillère de plus, là, tu vas juste avoir moins de résultats parce que c'est pas que ça, tu vas faire comme, mon Dieu, là, j'ai plus faim, ça fait du bien. La plupart du monde, c'est ça, ils vont en faire un petit peu plus, puis ils ne se rendent compte pas de l'accumulation que ça fait. Et comme tu dis, sur le stage, tu ne veux pas vivre ça. Tu ne veux pas vivre ça de perdre puis de te dire que c'est à cause de maudite cuillère que j'ai perdue. Ouais, moi, je trouve que c'est lâche, honnêtement. Je trouve que c'est de ne pas être capable d'avoir de la volonté de se dire, regarde, non, moi, je suis plus fort que ça. Je n'ai pas besoin de prendre ça. Je prends mon pot. Puis, tu sais, si je peux donner un conseil, là, quand tu es rendu devant la fin de la prep, tu prends ta cuillère, tu la prends, tu la mets de côté, tu fermes le pot, tu le ranges, tu mets des affaires que tu t'installes pour manger et tu manges après. Pas genre, je prends la cuillère, j'en mange, là, il est encore ouvert. Là. C'est super facile mentalement. C'est con ce que je dis là, mais c'est vrai. Parce que quand tu es en prep, c'est facile. Ton accès est facile. Mais là, si tu refermes ton plat, ton pot de beurre d'arachide, tout, tu mets ça là, tu n'as pas le choix. Là tu as une étape de plus à faire. Si là, il faut que j'aille dans le garde-robe, dans le garde-robe, ça va pas bien. Là. Dans le garde-manger, dans le garde-manger, puis il faut que je le prenne, je l'eau, je le mette sur la table, j'en prends un autre. Tu as le temps de te rendre à. Fait que de penser pendant que tu as ce processus-là. Puis une autre affaire, tu parles de souffrance. Si tu n'es pas prêt à souffrir en bodybuilding, fais-en pas. Fais-en juste pas parce que c'est un sport, oui, qui va demander beaucoup de sacrifices, de souffrance, mais c'est le fun parce que justement, au bout du compte, quand tu arrives sur le stage, justement, on est combien sur le stage qui sont rendus là et qui ont réussi à passer outre ça? On est 10, 15, mettons au Canada, mettons dans une catégorie. Mais Christy, t'en as 10, 15 juste de ta catégorie qui ont réussi à faire ça. Ça, c'est hot. Là, tu te dis, hey, j'ai fait de quoi que 95% du monde ne font pas, ne sont pas capables de faire, parce que tu parles à du monde, ils vont te dire, comme, hey, t'es bon de faire ça, moi, je ne serais pas capable. C'est pas vrai, ça. C'est pas vrai que tu ne serais pas capable. T'es capable si tu mets la volonté, puis si tu es capable de passer outre ça. Tout le monde est capable de faire ça. Si tu es capable de te conditionner mentalement à faire ça. Mais c'est que le monde sont trop lâches, puis ils font comme, ah, moi, j'aime ça manger. Ben, regarde, tu penses que moi, j'aime pas ça manger? Fuck off, man, c'est sûr que j'aime ça manger. Mais c'est la réalité, c'est que moi, la nourriture, c'est du fuel, c'est de l'essence. Fait qu'à chaque fois que je vais manger, je vais toujours me dire, qu'est-ce que ça va m'apporter? Est-ce que ça, c'est négatif ou c'est positif? Si c'est positif, je le prends. Si c'est dans mon plan, je le prends. Mais si ça ne m'apporte rien, pourquoi je le prendrais? Peut-être que des chums en quelque part, puis, hey, prends-tu une bière? Juste une bière, je suis en off-season. Mais pourquoi je prends une bière? Demain, je vais m'entraîner, je vais être inflammé, je vais être ballonné, ça sert à quoi? Ça ne sert à rien, j'apprends pas. Fait que j'ai divagué un peu.
mais c'est bon, tu sais, parce que l'affaire du pot de beurre peanut, c'est tellement simple parce que, tu sais, mettons que quelqu'un qui est alcoolique, qu'est-ce qu'il fait? Ben, il s'en va d'un AA, puis il s'en va d'une place où est-ce qu'il n'y a pas d'alcool, puis il y a des gens qui vont l'aider. Mais tu sais, si tu as de la misère avec la bouffe, tu gardes des sacs de chips chez vous ou tu gardes ton pot de beurre peanut ouvert quand tu sais que c'est sûr que si c'est là, tu risques de le prendre, tu sais. Puis une des premières affaires que le monde. Ou qu'il fasse que ce soit extrême bodybuilding ou juste de te remettre en forme, c'est de regarder qu'est-ce qu'il y a dans tes armoires puis d'enlever qu'est-ce qui peut te tenter. T'sais. Parce que si tu n'en as pas chez vous, ben, ça va pas être comme à ta manche, hey, j'ai vraiment le goût de manger une autre cuillère de beurre de peanut ou un sac de chips. Je vais aller au IGA, je vais faire 20 minutes de char, je vais aller là. T'sais, ça va, tu vas dire non, je vais pas le faire, mais s'il est là, tu vas le faire. T'sais. Fait que, ça, je pense que c'est une autre affaire super simple à faire, comme tu dis, Frank, juste comme. Tu le prends et tu sers ça après.
Mais j'ai un tips qui vient de me passer par là. Quand tu es en fin de prep, là, ça c'est Flex Lewis qui m'a dit, ben pas à moi directement, mais qui a dit ça, puis j'ai retenu. Ouais, je suis bête jamais avec Flex Lewis. Mais non, j'ai vu ça, puis je trouvais ça intelligent. Puis j'ai fait ça dans mes dernières prep. À place de manger quand tu es rendu à la fin, là, puis c'est souffrant à manger parce que c'est pire manger après parce que tu as goûté à de la nourriture. Fait que c'est donc bien bon, mais tu sais que là, tu as encore 2 heures avant de manger. Mais quand tu es rendu à ce stade-là, tu prends une cuillère à thé, une cuillère à bébé, mettons, puis tu manges ton repas avec ça. Fait que c'est beaucoup plus long que de faire puis tu finis de manger en 30 secondes. Fait que tu prends ta petite cuillère, tu manges tranquillement, puis en plus, le fait de mastiquer les enzymes digestives, tout ça, c'est plus facile. Fait que juste de prendre ton temps pour manger quand tu peux le faire avec une petite cuillère, honnêtement, ça l'aide. Mon tip, c'est.
J'ai l'impression que tu en manges plus parce que c'est plus long.
C'est ça.
Puis tu sais, quand tu penses à ça, ça reste que oui, c'est souffrant, puis oui, ton apport en glucides est diminué, puis oui, ben, ton corps demande fortement, ton cerveau te demande fortement de t'alimenter, là, je veux dire. vous savez, c'est quoi, là? Mais je veux dire, il y a du monde qui a souffert pas mal pire que ça. Je veux dire, quand ils nourrissaient les... Quand ils nourrissaient les prisonniers des camps de concentration avec 40 millilitres de bouillon de poulet avec un peu de sel, puis la moitié d'un morceau de pain par jour pendant un an, là, puis ils faisaient travailler 10 heures par jour, ça... Ça, c'est grave. Ça, c'est difficile. Ça, c'est dangereux, tu sais. Là, leur vie est en danger. Ça reste que, côté bodybuilder, oui, c'est souffrant, mais il n'y arrivera rien. Ça vaut la peine de continuer. Cette souffrance-là, c'est... Tu peux te dire que c'est une bonne chose. C'est la preuve que ce que je veux fonctionne parce que je me sens comme ça et c'est le prix à payer pour aller jusque-là. Christy, tu manges quand même 6 fois par jour. Pas comme si tu mangeais plus pantoute. Tu sais que le message est difficile, puis que quand tu es dedans, c'est pas évident. Man, quand j'étais en fin de prep, moi, je regardais ce que le monde mangeait, puis j'ai dévisagé. J'avais le goût de dire, hein? Tu te bourres la face, hein? Hein? Sais-tu que t'es chanceux de manger ça? Tu sais pas, hein? Tu sais pas comment t'es chanceux, mais t'es chanceux, puis tu t'en rends même pas compte, hein? Tu me fais chier. Puis je suis sûr que tu l'enjoy même pas. Même que je pensais. Après, j'étais comme, je suis bien ta
tête. De toute façon, est-ce qu'on progresse dans le confort ou dans l'inconfort?
Ouais, dans l'inconfort, carrément. Je veux dire, si tu cherches un shortcut, tu n'as rien. Ça ne fonctionne pas.
Ouais, puis, j'ai complètement oublié mon idée.
On vous revient après la pause.
C'est ça. Non, mais c'est ça. Parce que quand tu es en préparation de compé, OK. Faut que vraiment que. Puis même quand tu choisis ce mode de vie-là qui est différent des autres, faut que tu prennes en considération que c'est toi qui as choisi ça. Les autres n'ont pas d'affaire à souffrir de ça. Puis que quand tu chiales, tu fais juste chier tout le monde autour de toi parce que c'est toi qui as choisi ça. Même chose que peu importe ce que tu vas faire dans la vie, c'est un choix différent des autres. Puis tu fais juste te plaindre, mais c'est toi qui as choisi de faire ça à un certain moment donné. Puis je pense qu'il n'y a personne autour de toi qui doit souffrir de ça. Puis malheureusement, je pense qu'il y a beaucoup de relations qui souffrent du bodybuilding dans le monde en général. Tu sais. Fait que c'est de prendre une responsabilité que c'est moi qui ai décidé de faire ça. Si je souffre là puis j'ai faim aujourd'hui, j'ai décidé de le faire. Fait que je vais juste passer au travail puis ça va bien aller.
Comme les petites filles en fin de session à l'université, ça broille, ça chiale. Je t'en ai étudié, c'est tellement tough. Ben lâche, arrête de m'écœurer avec ça. Là. Je veux dire, calme, c'est un peu le même principe. Dans le fond, c'est pareil, c'est partout pareil. T'sais.
Mais t'as tellement raison, Jake, pour vrai, ce point-là. T'sais, on avait déjà parlé dans le podcast qu'on a fait ensemble. Mais tu sais, c'est toi qui décides de faire une prep. C'est toi qui décides de faire ça. Il n'y a personne qui t'a mis un gun sur le bord de la tempe et qui dit « Hey, là, tu vas faire une prep. » Tu sais, quand tu as une dispute avec n'importe qui, avec, mettons que tu as une argumentation avec ta blonde ou avec ton chum, puis que tu repenses à ça, à place là, de chialer, là, fais juste comme penser deux secondes pendant que ta blonde ou ton chum te parle, puis dis-toi comme « OK, elle, elle n'a pas changé. Elle a continué son mode de vie normal. Moi, je suis rendu que je mange, je ne sais pas, moi, 2500 calories. Je m'entraîne 2 fois par jour. Je fais du cardio, je fais 45 minutes. Ça se peut-tu que c'est moi qui est plus irritable? Ça se peut-tu que c'est moi qui est un peu impatient? Je pense que oui. Je pense qu'on l'a pas mal trouvé, la réponse. Fait qu'à ce moment-là, le meilleur conseil que je peux donner à la Patrick Huard, là, tente ta gueule. Pour vrai, là, reprends. Tu sais, pense, là, tourne ta langue, là, puis tu fais comme moi, je pense que je vais prendre sur moi un peu celle-là. Ça arrive souvent.
Ça amène un bon point que je pense que c'est vraiment important de s'entourer des bonnes personnes quand tu fais ce sport-là. Je sais pas, on a-tu parlé l'autre jour?
Ben, c'est moi qui vais aborder un peu le sujet, mais non, on n'a pas parlé.
Ben, c'est ça. Je pense que c'est important de s'entourer du monde qui vont comprendre, mais qui vont pas... Ça ne veut pas dire que s'ils comprennent, il faut qu'ils souffrent de toi, là. Mais qu'ils vont comprendre, puis du monde qui vont te propulser à travers tout ça aussi. Parce que si, à tous les jours, ton meilleur chum est tout le temps à te dire « Mais là, arrête ça, man, là, c'est niaiseux, qu'est-ce que tu fais, puis tout ça. » Bien, c'est sûr qu'à un moment donné, ça te joue dans la tête, puis que ça va être plus dur à le faire. Tu
n'as pas besoin d'être des bodybuilders, ça n'a pas besoin d'être des athlètes de haut niveau. C'est quelqu'un qui t'aime, je sais pas moi, ou qui t'encourage sainement quand même, que ça ne l'intéresse pas pantoute, il va te le dire, lâche pas, ça n'a pas l'air facile que ce que tu fais, mais tu vas te sentir appuyé à travers ça. Puis, tu n'auras pas l'impression que, Colin, je fais quelque chose de pas bien. T'sais, je sais pas si ça vous est arrivé, vous autres, les gars, sûrement, en fin de préparation, c'est quoi que les gens, souvent, on dirait qu'il y a certaines personnes qui ont, ils ont quelque chose contre ça. Ils te regardent et sont comme, t'as l'air malade. Pourquoi tu fais ça?
Tellement.
Es-tu sûr que c'est bon? Ça va te donner quoi? En tout cas, moi, je trouve vraiment pas ça beau. Puis c'est comme si, c'est même pas à toi qui parle, c'est comme s'il y avait un gros miroir en avant d'eux autres, puis ils se parlaient à eux autres. T'sais, je veux dire, ils se font une autothérapie en te regardant. Puis la première chose que tu as envie de leur dire, c'est, ben, sais-tu quoi? Tu as tellement raison. Grâce à ce que tu viens de me dire là, ben, les 10 dernières années de ma vie ont été une erreur. Je pense que je vais tout arrêter. Merci. Merci, tu viens de changer ma vie. C'est-tu ça qu'ils veulent se faire répondre? C'est comme, j'ai l'air malade. J'ai l'air malade. Je veux dire, à la limite, dis rien, mais dis-moi pas des choses. C'est irritant à la fin, je trouve. Tu le sens, les gens qui ont quelque chose contre ça ou qui n'aiment pas le fait que tu te rendes à un certain endroit ou que tu performes d'une certaine façon ou que tu as l'air de quelque chose. Puis au contraire, il y en a qui vont être comme, tabarouette, ok, ouais, chapeau. Là, tu vois, il y a comme quelque chose d'un petit peu plus sain, je trouve, là-dedans. Il y a un élément d'encouragement, même s'il y a un manque de compréhension. Puis ça, c'est ces gens-là que, si possible, tu te dois de t'entourer.
Ouais, je pense que tu n'as pas nécessairement besoin d'avoir des cheerleaders, mais c'est juste d'avoir du monde qui comprenne, genre, qui respecte ça. Genre.
Respecte ça.
Puis des fois tu amènes le point de monde, des fois que, moi, je me souviens, ma mère, ma première compée, était comme là, t'as pas besoin de... Elle s'inquiétait comme juste, elle s'inquiétait, puis qu'elle était comme c'est pas bon faire ça, puis tout ça. Puis comme en en parlant avec elle, puis là, elle comprenait, puis là, c'était correct. Tu sais. Fait que tu sais, des fois, c'est juste d'éduquer, entre guillemets, les gens sur, regarde, c'est un court laps de temps, on fait telle chose, je mange bien, tu sais, que je peux pas mieux manger que ça, c'est juste que je mange pas beaucoup, je m'entraîne beaucoup. Puis, fait que je pense que la compréhension aussi, tu sais, on a toujours peur et on est toujours comme inquiet si on comprend pas une situation. Parce qu'on a eu une bonne indication qu'à quel point les humains ont peur quand ils ne comprennent pas quelque chose durant encore dans la pandémie. Mais bref, ça, c'est un autre sujet.
Mais ça revient aussi à quand tu fais ça, il faut vraiment que tu le fasses pour toi-même. Parce que comme tu dis, Hugo, si la moindre personne qui te dit « Ouais, c'est lettre, mais semble, tu sais, c'est pas beau, c'est pas nécessairement beau, comment est-ce que t'es, c'est cut, tu sais, là, ça va toujours dans le cerveau, ça va faire comme « Ah ouais, je suis pas beau, si, ben, tu sais. » C'est sûr que ça va être difficile. Là. Fait que si tu n'es pas prêt à avoir le jugement des autres, tu ne peux pas faire ça longtemps. Il faut que toi, tu aimes ça, tu tripes faire ça, puis à ce moment-là, peu importe ce que le monde va dire, que ce soit positif, que ce soit négatif, tu vas prendre ce qui est bon pour toi. Fait que c'est important que tu le fasses vraiment pour toi-même. Parce qu'il y a des gens qui ne le font pas nécessairement pour les bonnes choses. Avec la venue d'Instagram, il y a bien du monde qui font ça pour avoir des likes sur Instagram. Pourtant, tu sais, je veux dire, c'est pas ça qui va t'amener du bonheur, là. C'est vraiment faire ce que toi t'aimes. Si faire ça, c'est une passion pour toi, tu vas faire ça toute ta vie, tu vas te triper, mais si c'est pour avoir des likes et que finalement, ton Instagram, c'est un flop, là, eh boy, tu vas prendre une drop, là. Mm-hmm. Surtout qu'en bodybuilding, c'est pas là qu'on va chercher le plus de likes, là, on va se le dire, là.
C'est pas... Et puis même si t'en as full de likes, tu vas avoir des likes, tu vas être comme, hey, puis là, tu vas faire comme, ça me fulfill pas plus, tu sais.
De toute façon, tu vas avoir des likes de du monde, tu vas les croiser dans la rue et ils ne diront même pas salut.
C'est tellement vrai, hein, ça. C'est
tellement... Il y a tellement de monde qui pense que quand ils vont être en shape et qu'ils vont avoir des abdos, tout va changer. J'en ai tellement vu à travers les années du monde que même, hey, je vais me mettre en shape, puis ils ne font pas pour les bonnes raisons. Puis là, un coup, ils sont en shape, ils sont comme, hey, je suis en shape. Puis là, le monde, c'est comme, ah, bravo, sans plus. Parce que. C'est ça. Puis là, ils sont super déçus puis désillusionnés de tout ça, de dire « T'as vraiment choqué. » C'est vraiment important de se demander comme pourquoi, pour moi, c'est important de faire ça.
Ouais, c'est comme quand on dit « Quand je vais avoir de l'argent, là ça va bien aller. » Si je pouvais gagner le million, ça change absolument rien, mon ami. Ça change absolument rien. T'sais. Je pense qu'à travers cette discipline-là, tu gagnes une certaine liberté. Dans le sens que tu choisis ce que tu fais, tu choisis vers où tu t'en vas et tu choisis ce que tu veux, à quoi tu aspires. Donc, tu déchoisis tout le reste. Tu es libre de ne plus avoir à... C'est comme une certaine liberté, c'est comme un soulagement de dire « Ok, j'ai pogné mon chemin, j'ai pogné ma traque. » Je m'en vais dans ce chemin-là, puis t'es plus comme influencé, puis t'es plus dérangé par toutes les petites choses qui te dérangent autour, tu sais, puis finalement que t'es plus rien, que t'es libre de savoir ce que tu n'es pas, puis t'es libre finalement de te sentir quelqu'un, tu sais. Fait qu'à travers la discipline, il y a le « discipline is freedom », et que c'est ça aussi.
Ah, parce que si tu disciplines chaque heure de ta journée, chaque minute de ta journée, tu vas pouvoir aussi discipliner du temps pour faire d'autres affaires que tu as le goût réellement de faire qui font quelque chose, un gros impact pour dans ta vie. Tu sais, puis je vous pose la question, c'est-tu déjà arrivé une journée que vous n'ayez pas plus ou moins de structure, puis qu'au bout de la fin de la journée, vous étiez comme « Qu'est-ce que ça, j'ai rien fait aujourd'hui, puis j'ai pas rien fait de le fun non plus. Tu » sais. Parce que tu as passé du temps sur ton cellulaire, tu as passé du temps à faire à gauche, à droite des affaires qui n'ont pas un réel impact. Mais tu sais, c'est, je pense que dans le bodybuilding, tu travailles vraiment ça, la discipline. Puis après ça, ben, tu te rends compte que tabarnouche, si je suis discipliné autant là-dedans, dans toutes les sphères de ma vie, mais je peux réaliser peu importe ce que je veux dans ma vie. Là. Tu sais, moi, c'est une des choses que ça m'a le plus apporté, le bodybuilding, c'est de dire, OK, ben, peu importe ce que je veux faire dans la vie, ben, je peux le faire. Si je suis prêt à faire ce qu'il faut, à être discipliné, à mettre les efforts. Au bout du compte, tu vas réaliser peu importe ce que tu veux.
Oui, tu sais, Ryan Holiday parle énormément de ça, le dead time puis le alive time. Le bodybuilding t'introduit à ce qu'on appelle le alive time, que every day matters. Chaque journée compte, chaque chose que tu fais dans une journée compte et t'amène à quelque part. Dead time, c'est ça ici. Scroll ton cell. À la fin de la journée, si tu as passé 55 minutes sur Facebook, je te pose la question, qu'est-ce que tu as liké? Qu'est-ce que tu as appris? Qu'est-ce que tu as commenté? Je ne m'en souviens pas. Ça, c'est du dead time. La discipline du bodybuilding t'amène, t'introduit dans ce qui est du temps, du alive time.
Ouais. Écoute, je peux rajouter de quoi, moi, c'est d'essayer de spotter les personnes toxiques dans ton entourage, puis de les laisser de côté. Souvent, c'est pas du mauvais monde, c'est du monde qui comprend justement pas ce que tu fais. Puis, c'est de trouver ceux qui sont compréhensifs. C'est peut-être pas du monde qui font du culturisme, mais qui vont te supporter là-dedans. T'sais. Que ce soit la famille, les amis, tout l'entourage, ils comprendront peut-être pas, mais ils vont t'accompagner là-dedans. Ils vont comprendre que quand il y a un souper le soir, t'amènes ton repas, puis ils diront rien. Tu sais, c'est vraiment... Moi, je sais, depuis que j'ai commencé, il y a eu bien des personnes que j'ai laissées derrière. C'est du monde que je respecte énormément, mais ça avait pas... Il n'y avait aucune influence positive sur ce que je voulais faire. Donc, à un moment donné, il faut que tu fasses des choix. Tu vas aller vers les personnes qui te poussent à être meilleur, qui ne te ralentissent pas. Puis c'est ça. Vraiment de t'entourer de bonnes personnes, puis d'éloigner les personnes toxiques là, qui pourraient nuire à ta positivité, au but que tu as. C'est une des choses importantes dans le culturisme, je crois.
Tu as totalement raison, Max, pour vrai. Tu peux faire une petite tranche de vie. Tu sais, moi, de mon côté, quand j'ai commencé dans le bodybuilding, moi, j'étais à Trois-Rivières, puis c'était zéro connu, là, ce sport-là. Je veux dire, je pense que j'étais un des seuls qui en faisait dans ce temps-là. Mais il y en avait, mais je veux dire, c'était peut-être un ou deux personnes à Trois-Rivières. Puis là, je suis déménagé à Granby, puis tu sais, j'étais un petit peu plus loin que ces personnes, les personnes, mes chums qui étaient là. Puis avant, je faisais du bodybuilding, tu sais, je faisais des arts martiaux, puis tu sais, c'est sûr que je faisais le partout un peu aussi, pareil. Fait que quand j'ai commencé à faire du bodybuilding, t'as ces personnes-là encore qui étaient là, puis ils disaient, hey, tu sais, quand je les voyais, ah, on prend une bière, tout ça, puis. Tu sais, je commençais à trouver ça difficile parce que j'en ai pas le goût de prendre, j'ai pas le goût de prendre la bière. Puis, tu sais, j'étais comme reconnu pour être un peu le clown, tu sais, d'un party. Puis, tu sais, ben oui, on se fait du fun. Fait que, tu sais, là, c'était rendu que j'étais plate parce que je buvais pas. Mais pourtant, je suis aussi funné quand que je bois pas. Mais le fait de pas avoir une bière dans ma main, même si je suis funné, j'étais comme plus dans la gang. Fait que ça, pour moi, ça a été difficile. Je me suis dit, ben, calé, tu sais, ça m'apporte quoi d'abord? Tu sais, d'être obligé d'aller là-bas. Puis de me sentir mal tout le temps parce que j'ai pas ma bière avec moi. Tu sais, c'est quoi, là? Pourtant, je suis la même personne. T'sais, vous m'aimez pas pour ma personnalité, tu sais. Vous m'aimez parce que je bois de la bière avec vous autres. Fait que là, je vous fais sentir mal parce que moi, j'étais en parenthèse, en shape, puis je vais pas prendre la bière, puis vous autres, vous vous sentez mal parce que vous prenez votre bière, puis vous êtes pas en shape, tu sais. Là, ma année, je me suis mis à me sentir mal là-dedans. Fait que, au fur et à mesure, tu sais, que le temps avancé, bien, ces personnes-là, je me suis distancé. Puis, comme tu dis, Max, là, c'est pas parce que c'est des mauvaises personnes. Je suis encore en contact une fois de temps en temps avec eux autres, mais j'ai plus la même réalité qu'eux autres. J'ai changé. Tu sais, j'ai pris un chemin qui est totalement différent. Puis, c'est correct. On change dans la vie. Tu sais, ben, pas on change, mais on évolue dans la vie. Puis là, je vous ai rencontré les boys. Puis, tu sais, c'est là qu'on est devenu vraiment, vraiment chumé. Pourquoi? Parce qu'on s'apporte tous quelque chose. On s'encourage. Puis, on veut le succès de chacun. Fait que, qu'est-ce qui peut être plus net, plus positif que ça? C'est ça qu'il faut que tu trouves, une espèce de cercle d'amis, puis pas nécessairement parce que c'est dans le bodybuilding, mais du monde avec qui tu es capable de te driver up. Là. Le monde qui me drive down, c'est plate, mais j'en veux pas. J'ai pas le temps. Je suis tellement occupé. Le bodybuilding prend tellement de temps, mon travail, tout ça, que quand je veux passer du temps, c'est avec du monde que je sens que je vais être bien, puis qui vont m'apporter quelque chose, puis que je peux leur apporter aussi quelque chose d'un côté, parce que quand tu reçois, il faut que tu donnes aussi. Fait que, tu sais, moi, de mon côté, ça a été quelque chose, puis c'est un peu le même principe que toi, Max, mais, tu sais, à la longue, il faut que tu fasses des choix pour qu'est-ce que toi, tu vas avoir comme objectif aussi, puis qu'est-ce qui te fait du bien. Parce que si tu es malheureux dans des situations, il faut que tu mettes ça de côté, totalement. Parce que le bodybuilding, je reviens à ça, si tu es stressé, si tu n'es pas bien, tu ne performeras pas. Il faut que tu aies vraiment une harmonie qui soit quand même assez bien autour de toi si tu veux performer.
Ça peut être dur des fois pour les personnes pour lesquelles on prend la décision, mettons, de s'éloigner. Peut-être qu'ils ne comprendront pas parce que, tu sais, quand on parle d'une personne qui est toxique pour nous, la personne n'est pas déguisée en monsieur toxique, tu sais, puis « Allô, Minoune? » Attends, j'ai vu. Maxime, montre-nous ton chat.
La femelle. Aïe, t'as guère. Vas-y, Hugo, continue, je m'excuse.
Bon, hein. Je suis content d'avoir vu. Ils sont pas déguisés, ils n'ont pas leur déguisement de monsieur, madame toxique, ils sont comme je suis toxique, je suis conscient que je suis toxique, puis j'ai le goût d'être toxique, puis je vais agir pour détruire cette personne-là. Souvent, ils ne s'en rendent même pas compte. Fait quand ça peut être difficile pour ces gens-là, mettons, de dire crime, pourquoi il fait ça? Je comprends pas, il a changé, pourtant j'ai des bonnes intentions parce qu'il ne s'en rendait justement pas compte. Fait que peut-être à ce moment-là, quand tu vis une situation comme ça, où tu as l'impression que les gens autour de toi sont toxiques, tu peux te dire, crime, peut-être que moi aussi je suis toxique des fois. Crime, je le suis peut-être, puis je m'en rends pas compte. Fait que ça peut changer, mettons, la perspective que tu as de toi-même, puis tu peux penser que des fois, crime, dans ces situations-là, peut-être que ça m'est déjà arrivé, peut-être que je pourrais, si je m'attends ou si j'ai besoin que les gens autour de moi agissent d'une certaine façon, peut-être que d'autres personnes dans ma vie ont aussi besoin que moi, j'agisse d'une certaine façon avec eux autres pour les encourager. Hey, je me rends compte que tabarouette, je ne les encourageais pas tant que ça, dans le fond, ces gens-là. OK, là, tu vas comprendre des choses de ton passé, peut-être. Tu vas comprendre des choses de ton présent, puis tu vas réaliser des choses d'une façon que tu agis. Dire, Kim, tu vas catcher de quoi? Puis tu vas changer, puis tu vas devenir une meilleure personne pour les autres aussi. Tout ça en ayant vécu le fait que certaines personnes peuvent être toxiques avec toi des fois.
Ah, c'est vraiment bon ça. Puis, tu sais, la phrase de Jim Rohn, je pense que tu es le average des 5 personnes qui t'entourent. T'sais, souvent, le monde va dire « Ah, mais là, il faut que je me trouve du monde motivant autour de moi, puis il faut que je m'entoure de ce monde-là. » Mais la première étape, c'est de devenir la 6e personne des 5 personnes qui t'entourent. Mm-hmm. Ici, parce que ça, mettons que quelqu'un qui écoute, qui est quand même, moi, j'aimerais ça avoir un gars comme Frank dans ma vie. J'aimerais ça être chum avec Frank, il le voit au gym. Puis, il commence à parler avec, mais il se met à chialer sur quelque chose. Frank, là, il va dire, « Ah, man, ah ben non, Frank, il va faire, « Ah, yeah, je suis bien avec, mais ce ne sera pas quelqu'un qui va tisser des liens d'amitié ou qui va aller dans une relation plus loin, parce que la personne, c'est pas une personne que tu veux t'entourer, malgré que elle aurait besoin du monde comme toi autour de soi. Et c'est de devenir toi-même la personne, ben, c'est un échange d'énergie, tu sais. Puis si tu es avec une personne que tu n'aimes pas l'énergie qui est échangée, ben, tu ne vas pas pouvoir être avec. Fait que la première étape, c'est de regarder à l'intérieur de toi, comme Hugo dit, puis comme, OK, ben moi, c'est quoi mes patterns? Ah, des fois, que c'est peut-être moi qui dois évoluer à travers ce que je veux atteindre pour pouvoir, tu sais, comme il y a une attraction de gens positifs autour de toi. Là,
ben, moi, souvent, là, ce que j'ai remarqué, c'est que si... Moi, j'avais des patterns, mettons, j'étais du genre à être colérique. C'était des cas, Jacob, tu m'as connu plus jeune, là. Puis la vie va souvent te mettre du monde comme toi sur ta route. Moi, ça m'a fait réaliser. Tu sais, la personne faisait ça. Puis après ça, j'y repensais, puis j'étais comme, si je fais ça, moi, avec, c'est désagréable. C'est... Je veux pas faire ça. Je veux pas être cette personne-là, tu sais. C'est fou comment qu'il est... C'est vraiment la vie, on dirait, qui te met ce genre de personne-là. Puis c'est à toi de le réaliser, de changer ce pattern-là, de faire comme, oh, mon Dieu, là, je veux pas être cette personne-là. Je veux pas avoir de monde toxique. Puis je veux pas changer l'ambiance. Je veux pas être une personne toxique, moi non plus. Là. Tu sais, quand quelqu'un choque pour rien, ça change l'ambiance d'une place pour tout le monde. C'est désagréable. Là. Fait que je suis pas parfait, là, mais je suis beaucoup plus calme. Puis je pense que c'est ça, c'est tout le temps des... La vie va t'amener ça pour que tu le remarques. C'est à toi de le remarquer puis de changer le pattern, de le rendre, tu sais, de t'améliorer puis de le rendre plus positif. Là. C'est... La vie est pleine de surprises comme ça, je crois.
100%. C'est quoi, vous direz, ça fait déjà une heure, je pense, qu'on veut. C'est quoi que vous direz la chose qui est le plus sous-évaluée quand quelqu'un se dit « OK, ben moi, je vais faire une compé. » C'est quoi qui est sous-évalué?
Mon Dieu.
Qu'est-ce qui est sous-évalué? Dans le sens que... Ils se prennent pour acquis, que ça va être quelque chose qui va être facile. Qu'est-ce que tu veux dire?
Ça peut être ça, mais ça peut être, mettons, je vais donner un exemple très simple. La nutrition est sous-évaluée. La personne ne sait pas à quel point qu'il va falloir qu'elle compte ses affaires et qu'elle soit extrême dans ce sens-là, je veux dire, la question. J'ai peut-être mal exprimé. Mais c'est ça que je veux dire.
Sale bonne question, pour vrai. C'est sûr que la nutrition est sous-évaluée, comme j'ai dit tantôt. Parce que le monde va attribuer beaucoup d'importance à tout ce qui est autour. Les suppléments, les super suppléments, ils vont attribuer ça beaucoup à ça, puis ils vont essayer de penser qu'avec ça, ils vont pouvoir performer. Mais honnêtement, tu as donné la réponse, je pense, en posant la question, mais la nutrition, je pense que c'est qu'est-ce qui est sous-évalué beaucoup, mais de beaucoup même, je pense. Parce que tu prends un gars qui s'en va en compétition, puis tu vas faire des à peu près. Il va avoir à peu près de résultats. Tu prends un gars qui va suivre à la lettre. Qu'est-ce que tu lui dis de nutrition? Il va être sa coche. Fait que, tu sais, je pense que la nutrition est très, très sous-évaluée. Le training, c'est une bonne tangente. T'sais, je veux dire, c'est une bon côté au niveau de l'entraînement, mais de la préparation pour une compétition. Mais la nutrition, c'est vraiment une grosse partie. Là, parce que tu peux faire le même training pendant toute ton année. Ça ne sera pas optimal, là. Mais tu peux le faire. Puis avoir une nutrition sacoche, faire un protocole de prep avec le même training, puis tu vas être sacoche. Mais fais pas l'inverse, par exemple. Prends ta même nutrition toute l'année, puis change tes trainings, fais des cycles d'entraînement, tout ça, tu ne pourras pas aller en compétition. Je pense que c'est un peu la balance que je préfère entre les deux.
Le sommeil aussi, là, écoute, moi, pour avoir... Je me rappelle de ma prep, le sommeil, c'est quelque chose... Tu ne penses pas à ça, là, tu ne penses pas à quel point c'est important, mais puis c'est tellement dur de dormir en prep là, que c'est un aspect qui est probablement dur à gérer. Là. Moi, je n'ai pas fait beaucoup, là, mais je sais que ça revient souvent, là, le manque de sommeil vers la fin, tout ça. Là. Je sais que ça a une importance énorme sur le look de ton physique puis ton... au système hormonal, tout ça, mais c'est quelque chose à gérer. Là. Moi, je me rappelle, les nuits étaient courtes, là. C'est difficile. C'est très, très peu de sommeil. Moi, je me rappelle de Jacob qui allait faire du cardio à 3 heures le matin parce qu'il ne dormait pas, mais qu'il était fatigué à 9 heures le soir. T'sais. Fait que c'est spécial des fois. Là. La prep, là, c'est vraiment intense. Le sommeil est très peu présent à la fin. Là. Mais c'est sous-estimé dans le sens que tu en as vraiment besoin. Là,
moi, je pense que tu pourrais résumer ça en la récupération, peut-être.
Oui.
Je pense, tu sais, en t'écoutant parler, je pense que c'est un gros point que tu viens de mentionner, mais la récupération est vraiment sous-estimée aussi parce que c'est pas parce que tu en fais plus que tu vas avoir plus de résultats. Ouais. Des fois, si tu en fais plus, puis j'étais le même au début, j'avais moins de résultats parce que je grigeais dans mon muscle parce que j'avais pas assez d'énergie, mais je me disais, si je continue à faire mon cardio à 1 h du matin, après avoir fait mon chiffre de nuit, puis me relever à 6 h, puis Il n'y a personne qui fait ça, je vais être meilleur, je vais être meilleur. Ben non, c'est pas ça. La récupération, c'est comme la grosse base, la grosse critique de base. Mais ça, pour, je pense que pour être rendu là, pour comprendre ça, puis vraiment bien l'appliquer, il faut que tu connaisses ton corps. Tu peux pas, à ta première prep, faire « Bon, ben là, je suis fatigué, j'irai pas m'entraîner ou je prends mon journée off. » Ça marche pas parce que tu connais pas assez ton corps. Fait que plus que tu progresses dans ton niveau de bodybuilding, plus que ça fait de compétition, plus que tu commences à connaître ton corps, tu fais comme « OK, là, je me sens vraiment brûlé. Je sais que si je vais au gym, pourrais, ça me servira à « sweet fuck out ». Je prends ma journée off aujourd'hui, pas de cardio. Je prends mon meal, ma journée off de meal. Mais pas off de meal, mais ma journée off de gym de meal. Fait que, tu sais, j'ai moins de carbs. Je fais ça aujourd'hui. Puis demain, là, je vais kicker mon gym. Là, ça va être débile. Mais ça, tu peux pas l'appliquer au début parce que tu es tout le temps brûlé puis tu sais pas c'est quoi ton seuil à respecter. Mais tu as raison, Max. Le sommeil, la récupération, il faut vraiment... C'est la sagesse à maintenant à l'ombre qu'on accorde, qu'on acquiert, c'est-à-dire...
Je suis d'accord avec toi. Moi aussi, je suis capable totalement à faire de juste dire, quand aujourd'hui, je suis brûlé, fait que je vais-tu vraiment y aller? Puis, en plus, tu y vas, tu as un training de marde, tu reviens chez vous, tu es déçu. Reste chez vous, repose-toi, t'es frais demain, vas-y, puis détruis la place. Là, c'est vraiment. Mais c'est ça, c'est avec le temps, ça, je pense. Parce qu'au début, tout ce que tu penses, c'est comme si je m'entraîne pas, ben, j'ai manqué un training. Moi, ouais, mais c'était peut-être la chose à faire aussi. C'est ça, c'est dur de te dire ça au début. Là. C'est vraiment avec les années, mon nez, que tu vas faire comme je vais pas là. C'est mieux comme ça. Tu l'acceptes et tu donnes tout le lendemain.
Tu as raison. Puis même, tu sais, on parle de. J'imagine ceux qui écoutent ça, ils vont en avoir que ça fait pas longtemps qu'ils veulent faire du bodybuilding. Mais tu sais, le plus important, un conseil que je peux donner par rapport à ça, c'est tiens ton coach au courant tout le temps. Tu sais, les updates sont importants. Moi, je fais des updates hebdomadaires, puis j'ai des courriels que je reçois tous les jours. Mais la façon que tu te sens quand tu es en prep, c'est important que tu le dises à ton coach, que tu le mentionnes, tu fais « Hey, là, j'ai tel symptôme, c'est normal. » Ça se peut-tu que ce soit le temps que ton coach te donne un break? Mais si tu ne donnes pas ces feedbacks-là à ton coach, il ne saura pas. Lui, il pense que tout va bien, fait qu'il continue à te faire rouler. Mais il faut que tu donnes des feedbacks. Quand tu ne connais pas ton corps, il faut que tu donnes des feedbacks à ton coach pour que lui, ça ait une cloche, pour qu'il fasse bon, ben OK, ben là, puis on prend deux jours off, on fait un carb loading, on fait peu importe, il faut qu'il le sache. Fait que ça, c'est super important parce que la récupération, c'est la base, Max, tu as raison.
Jacob aussi, souvent quand on s'entraîne dernièrement, on se dit tout le temps, hey, ça en prend tellement moins qu'avant, tu sais, le volume d'entraînement, tout ça. C'est fou, là, justement, quand tu t'appliques plus aussi et que tu as plus de précision. Je me souviens, moi, faire des journées de bras avec 8 exercices de biceps, là, ce qui est totalement ridicule. Là. Je suis capable de mettre un exercice ou un superset de biceps, puis je suis détruit après. Là. Fait que c'est vraiment. Ça, c'est un autre aspect. Là. C'est hors sujet, là, mais c'est une chose. Le volume d'entraînement, as-tu besoin de tant que ça? Là? Je crois pas. Là. C'est vraiment. La précision, tout ça, là, avec une bonne périodisation, une bonne programmation, puis ton exécution, tu vas avoir autant de résultats que de faire 10 exercices de biceps ou de chest, whatever.
Oui, mais c'est pas hors sujet, Max, parce que ton volume d'entraînement, ça va jouer avec ta récupération aussi.
C'est sûr, c'est ça. Ça amène à ça.
Tu as totalement raison. Là. Puis le pourquoi que, ben Jake peut le confirmer aussi, mais tu sais, le pourquoi que. On fait des workouts qui sont sur papier beaucoup moins compliqués qu'avant, beaucoup moins d'exercices parce que notre facilité de recruter aussi est beaucoup plus facile. Tu sais, à un moment donné, allons, au début, là, quand tu n'as pas de muscle, tu vas faire 27 pour être sûr de peut-être avoir un 6 millipompe, mais tu n'as pas de muscle, tu n'as pas de biceps. Tu ne peux pas en avoir de pompe musculaire, tu ne peux pas avoir de ressenti. Tu sais, tu vas juste être fatigué à un moment donné, c'est la mécanique qui va arrêter parce que tu ne seras plus capable. Mais là, on fait comme 2-3-7, paf, on a déjà pompé parce que la facilité de recruter est plus facile. Fait que t'as pas besoin de faire des volumes incroyables comme qu'on faisait avant, parce que moi aussi, j'étais comme ça. Je pensais que plus que j'en faisais, mieux que c'était. Tu sais, je peux passer 3 heures au gym quand j'étais jeune. Là. Ça ne servait à rien, pour vrai.
Ouais. Pour rentrer dans les précisions, ce qui arrive, c'est que plus ça va, plus tu deviens meilleur à contracter tes muscles, mais pas nécessairement juste volontairement, mais neuralement aussi. Fait que tu as des unités motrices qui contrôlent le nombre de fibres musculaires qui est recruté, puis tu sais, c'est des estimations, mais c'est à peu près quand tu commences à t'entraîner que tu n'as jamais vraiment fait de sport, rien, tu es à peu près à 7% de recrutement de tes fibres musculaires que tu es capable de recruter. Ça veut dire que c'est pour ça que tu vois, mettons, un gars qui va faire genre 8 exercices de suite dans le gym, il court partout, puis 30 secondes après, il est correct, genre. T'sais, il fait squat, front squat, leg press, hack squat. 30-45 secondes après ça, ah, ça a bien été, puis c'est correct, tu sais. Fait que c'est ça, mais c'est pourquoi? Parce que même s'il bouge, il fait son mouvement, il n'est pas capable de recruter ses fibres musculaires au complet. Puis quelqu'un qui est vraiment, vraiment expert à s'entraîner, il va recruter jusqu'à comme 60% peut-être maximum, 70% si on va dans l'extrême. Fait que c'est ça, c'est une des raisons pourquoi tu as moins besoin de volume. Puis après ça, mais il y a plein d'affaires qui rentrent en ligne de compte que le volume, est-ce qu'il est égal sur un squat ou un leg extension? T'sais, 4 séries sur un squat ou 4 séries sur un leg extension, c'est pas le même impact que ça là. Fait que c'est du coup, je ne parle pas longtemps de ça, là, mais c'est pas le volume que. C'est beau les recherches que ça dit, ah, tu devrais faire 20 séries de quad dans un workout. Il y a beaucoup plus que ça à prendre en considération pour la sélection de volume.
T'sais. Dans le premier podcast, j'avais mentionné, tu m'avais introduit à MI40 quand on habitait ensemble, puis sûrement que je n'avais pas cliqué à cause de ça. Sur papier, quand tu regardais ça, tu avais quoi? Deux exercices de chest, un de triceps, puis des mollets. T'sais. Là, tu fais comme, ben non, c'est beau que c'est logique, là, les tempos et tout, mais il n'y en a pas assez, tu sais. Puis, c'est le contraire, là, je veux dire, c'est parfait là, comme programmation. En tout cas, moi, ça marche beaucoup mieux, ça, que d'essayer de passer justement, comme Frank dit, 3 heures là, sur un groupe musculaire, là, tu sais.
Mm. À travers tout ça, il y a un sujet que vous aviez écrit. C'est quoi, selon vous, l'importance d'un coach dans ce processus-là?
Vas-y donc, Hugo, t'as-tu...
Je pourrais peut-être répondre à ça en posant une question, si vous me permettez. Est-ce que c'est nécessaire, voire essentiel, que votre entraîneur ait déjà passé par là, c'est-à-dire par une prep, par une diète, par un cheminement qui ressemble à ça, qui est aussi difficile qu'une préparation de bodybuilding ou que on peut l'appeler entre guillemets une carrière de bodybuilding, pensez-vous que c'est essentiel ou c'est pas grave? Puis, la raison pourquoi je pose cette question-là, c'est que tantôt, Francis, tu parlais, Maxime aussi, vous parliez de récupération, puis de garder l'importance de garder le coach informé de comment ça va. Peut-être qu'un coach qui en a jamais fait, qui ne sait pas ce que c'est, qui n'a pas d'expérience dans l'espèce d'expérience de slash souffrance d'une prep. Là, je suis vraiment fatigué. Je ne sais pas ce que j'ai. On dirait que j'ai fini mon training de legs tantôt. J'ai fait des legs. Je suis parti à broyer. Deux dernières nuits, j'ai 4 heures de sommeil. Je ne comprends pas ce qui se passe. Là. Je fabule. Là, ça bouffe. Là, je me réveille. Je suis allé sur le site de Reese pour tout voir les gâteaux de Reese. Mais on dirait que je suis depressed. C'est-tu normal? Ah ouais, ça, c'est normal. Ça veut dire que ça va bien. Fait qu'il faut que tu continues de même. De te faire dire ça, c'est-tu bon? C'est-tu pas bon? Si le coach l'a déjà vécu, si le coach l'a pas vécu, ça peut te changer quelque chose. Fait que mon questionnement, c'est-tu important selon vous que votre coach sache de quoi il parle sur le terme d'expérience?
Vous m'avez assuré dans la réponse. Moi, je pense beaucoup au preach by example. Puis, la réponse, c'est pas oui et c'est pas non. Okay. Moi, je pense que la réponse, c'est que pour la majorité du monde, je crois que oui, il faut que tu aies passé par là. Pour que quand tu dis à quelqu'un, comme tu mentionnes, tu sais, si tu es brûlé, fatigué, quoi que ce soit, que le gars, il fasse non, c'est correct, c'est normal. Que le gars, dans sa tête, ça te pas comme hey, fuck you, man. Pour vrai, tu n'as jamais fait ça, tu as une petite prep de bodybuilding. Là. Fait que regarde, moi, je m'en vais chez nous, puis je sais que je suis fatigué, j'ai besoin de manger telle affaire, puis il va le faire. Versus. Quand tu auras quelqu'un, puis tu fais comme big, je sais, fuck. Là, tu es dans ta partie la plus difficile, mais je te le dis, mais tu arrives là. Parce que là, 5 semaines, là, c'est long, là. C'est long, 5 semaines. Mais tu arrives à ta 4e semaine, 4 weeks out, tu vas voir. C'est comme on dirait, c'est plus facile, c'est plus concret. Tu as passé par là, tu peux l'expliquer, tu peux le préparer à qu'est-ce qui s'en vient. C'est rassurant. C'est rassurant. Je pense que le mot, c'est rassurant, puis tu sais comment guider la personne versus quelqu'un qui ne l'a jamais fait. Tu vas avoir moins de facilité à comprendre puis à adhérer à ce qu'il va te dire. Mais ça ne veut pas dire que je ne pense pas qu'il faut absolument que tu aies fait une preuve de compétition si tu as vraiment des connaissances tu as coaché du monde, tu étais capable de le voir, tu as une façon d'analyser puis de connaissance au niveau scientifique, tu peux le faire. Mais moi, je pense que préférablement, les deux ensemble, c'est l'idéal.
Okay. La seule affaire que je trouve qu'il peut être problématique, puis moi, c'est ce que j'ai vécu, c'est le côté empathique. Okay? C'est que tu arrives avec un athlète que ça fait un bout de travail, il est à 3 semaines out, puis là, il est plus capable, puis là, toi, ça fait juste te souvenir que toi aussi, à 3 semaines out, t'as dit que ah, oh, fuck, c'était rough, puis hey, je comprends ça, regarde, je vais te faire carbé à soir. Regarde, tu vas manger des carbs, mais tu sais que c'est pas ça qu'il faudrait qu'il fasse, mais t'es. Fait qu'il y a ce côté-là, des fois, qui peut être un couteau à double tranchant d'en avoir déjà fait. Tandis que quand tu n'en as jamais fait, tu es comme, garde le plan, là. C'est correct, ça va bien, tu vas passer au travers. Mais je pense que, comme Frank dit, il y a quand même quelque chose que tu ne peux pas lire dans les livres. Tu ne peux pas apprendre sur une vidéo YouTube. Tu ne peux pas apprendre ça dans une formation de ce que c'est une compétition de bodybuilding, une préparation. T'sais. Fait que, ouais, je sais pas si. Moi, je pense qu'il faut que tu l'aies vécu pour préparer du monde, mais il y a des. Faut que tu prennes en considération que en tant que coach, tu peux avoir des triggers émotionnels qui vont arriver durant ta prep, qui vont. Tu vas avoir un biais émotionnel par rapport à tes décisions qui peut arriver.
Ouais. Vas-y, Hugo. Non, vas-y.
Parce que. Ben, je trouve que c'est une bonne réponse. Le oui et le non. C'est sûr que si tu n'as jamais mangé un coup de poing sur la gueule, tu ne sais pas à quel point ça fait mal. Puis,
ce qu'on peut rajouter, c'est que c'est pas parce que tu as mangé un coup de poing sur la gueule que tu sais nécessairement quoi faire non plus. T'sais. Faut pas tomber, genre, tu as fait une compétition de bodybuilding, tu sais comment coacher du monde en bodybuilding, mais faut pas faire le contraire non plus. Mais c'est bon, je te
laisse. Tout à fait, c'est ça.
Right, parce que juste rajouter ce que tu as dit, Jake. C'est pas parce que tu as fait une compétition que tu peux coacher du monde. Juste ce que ton coach t'a fait faire, si tu donnes ça à quelqu'un d'autre, ça marchera pas. Là. Ça peut marcher, mais ça marchera pas puis il sera pas on point. Fait que, le fait d'avoir fait une compétition, l'accumulation, la connaissance, l'expérience, la lecture, aller chercher des connaissances, ça, tout ça ensemble, quand ça s'arrime, ça fait de toi un bon coach, mais une compétition, non, là, comme tu dis. Je voulais juste rajouter ce petit.
Vas-y, Hugo, on te coûte plus.
Ah non, c'est pas grave, c'est pas grave. En fait, c'est ça, c'est que moi, la raison pourquoi je posais cette question-là, c'est que j'avais de la misère moi-même à répondre à ça. C'est que je le sais pas. Il y avait, comme tu dis, le côté empathique, parce que si on y va par expérience personnelle, moi, je serais du genre à dire, je sais ce que c'est, inquiète-toi pas, je vais te faire carber. Tu comprends? Puis ça, c'est pas bon. C'est pas bon, parce que là, tu as une réponse beaucoup trop émotionnelle et pas assez rationnelle qui respecte pas assez le plan. En même temps, si tu l'as jamais fait, puis tu n'es pas quelqu'un qui sait c'est quoi. Je veux dire, à un moment donné, là, tu te lèves le matin, là, de te lever de ton lit, c'est dur. Tu prends ta douche, de t'essuyer les pieds avec la serviette, c'est dur. Mettre tes souliers, faut que tu t'assoies à la fin. Tu es fatigué, tu montes les escaliers. Puis plus capable de marcher vite. Il me semble que c'était comme ça. Les preps que je faisais, j'étais plus capable de marcher vite. Ça me prenait je ne sais pas combien de temps avant d'activer mon corps pour que mon training aille de l'allure. Puis je faisais juste penser à mon gym. J'étais, oh my God, je vais-tu survivre à ce dernier training de legs-là? T'sais, la première fois que j'ai fini un training de jambes, ma première prep, je suis parti à pleurer. J'étais comme, c'est comme si je venais d'accomplir l'impossible. C'était le soulagement total. Écoute, c'était quelque chose, là. C'était dur, là. Il m'a dit, la personne qui n'a pas passé par là, je veux dire, peut-être, comme Francis dit, il y a le risque peut-être d'être moins crédible quand il dit, écoute-moi, là, je sais ce que tu as besoin, continue. Je sais que ça fait mal. Ouais, mais tu sais pas, man. Puis, je me souviens que ma première compé, je me disais, c'est impossible que ce soit normal comment je me sens. Je file pas. Je ne vais pas bien. Je me sentais depressed, ben raide. Écoute, j'étais rendu à la fin, là, j'allais aux toilettes, là, comme une fois 3 jours, il n'y avait rien. Je ne mangeais plus. Je pensais que j'allais crever, vraiment. Puis je me disais, c'est pas normal, je me sens de même. Mais il n'y a pas personne. Je dois être le seul parce que j'en fais plus jamais. C'est fini. J'en fais plus jamais. C'est terminé. Puis j'avais ce questionnement-là. Je me dis, comprends-tu, là, mon coach, comment je peux me sentir? Comprends-tu? Fait que, de là, ma question. Là, je voulais avoir votre opinion à savoir si c'était important ou pas.
C'est sûr que c'était pas vraiment normal, tu n'es pas à Salomé pendant 3 jours, par exemple. Ouais. Ça, c'était une autre discussion.
mais à la défense, il faut toujours voir aussi qu'est-ce qu'on ne fait pas comme faux. Je me pensais plus fin que les autres à ma première compétition, puis je respectais pas ma diète. Je mangeais pas plus, je mangeais moins. Dans ma tête, non. Moi, je vais être sec, puis je vais être meilleur, puis je suis capable. Puis ça m'a tellement... Je veux dire, j'ai commencé mon marathon avec un sprint. C'est ça qui est arrivé. À moitié de la course, je n'étais plus capable. Fait que c'est ça.
Voilà. C'est ça que c'est. T'es quand même gagné. Tu étais quand même très sec.
Oui. C'est arrivé, mais si l'avoir fait, peut-être plus d'une autre façon, avoir écouté plus le coach, peut-être que j'aurais été encore meilleur. T'sais.
C'est
ça.
C'est quoi le... Pensez-vous que c'est faisable de se prépper seul pour une compé?
Non. Pour vrai, non. Ben oui, c'est faisable, mais je pense pas que tu vas être à ton meilleur. Parce que, ben là, tu sais, c'est mon opinion, comme moi, je le ferai jamais. Là. Puis c'est pas pour rien, tu sais, Philly, t'as un coach. C'est pas pour rien que Sean Rollin a un coach. Sinon, ces gars-là, je veux dire, ils s'entraîneraient tout seuls, ils feraient ça tout seul parce que c'est des dépenses quand même que t'as à faire. Moi, je pense que, honnêtement, t'as pas un œil assez objectif rendu à la fin. Quand t'es rendu à 4 weeks out, là, c'est sûr que je serais comme Hugo, je coupe tout. Même si c'est pas ça que j'ai à faire, parce que ton cerveau, il fonctionne plus super bien. Là. T'as plus de gras, puis ça prend du gras pour alimenter ton cerveau, puis t'étais pas à ton meilleur là, pour penser. Fait que, tu sais, on est toujours coordonné mal chaussé quand on est rendu en fin de prep. Ce que je faudrais que j'applique, sûrement que je l'appliquerais pas. Parce que je me dirais, ah non, je suis pas assez sec, je suis pas assez ci, je suis pas assez ça. Je vais faire plus ci, je vais faire moins ça. Mais tu n'es plus en capacité vraiment d'avoir vraiment le meilleur raisonnement. Fait que ça te prend un œil objectif qui te dit, non, follow the process, c'est ça, big, continue comme ça. OK, ouais, c'est vrai. Mais tu peux, avec l'expérience, apporter des suggestions à ton coach. Hey, je pourrais-tu faire ça, par exemple? Ouais, ce serait pas fou, tu sais. À la longue, je pense que la synergie avec ton coach va faire que tu auras des bien meilleurs résultats que si t'es tout seul. Fait que, alors, lui te connaît, toi tu te connais, fait que là, tu sais quand tu as telle affaire que, ouais, c'est prêt, tu pourrais faire ça de même, ça serait bien mieux. Là, il va peut-être te dire, non, regarde, c'est-tu quoi? Moi, je pense qu'avec comment est-ce que t'es là, non. Ou sinon, hey, c'est pas fou. On va l'essayer, puis ouais, t'as raison, je pense qu'on va y aller dans ce type-là.
C'est bon ça, parce que du coaching, c'est pas de donner un plan, puis fais ça, ça va bien aller, c'est un travail d'équipe, tu sais. Autant, tu parlais tantôt de l'importance de donner du feedback. Tu sais, disons, tu as des clients qui ne remplissent jamais leur check-in, mais tu arrives à la fin du mois puis on change ton plan. Mais c'est sûr qu'on n'a pas 30 feedbacks pour ajuster tes affaires, pour optimiser, mais regarde, on fait ce qu'on peut. Mais surtout dans une période de compétition, si à tous les jours tu donnes du feedback, vous avez un échange qui se fait, puis là, une compréhension de comment ça se passe. Écoute, tu as mangé, exemple, plus de patates douces, crime, OK, ta digestion va mieux, mais tabarnouche, mais qu'on carb, on va y aller plus avec des patates douces qu'avec du riz. Puis, tu sais, c'est comme tous des petits détails, ça, que des fois, qui font une grosse importance. Tu sais, moi, ma dernière compé, j'ai carbé au riz, j'ai fait des brûlements d'estomac toute la nuit, puis j'avais les cheveux enflés le matin, tu sais, parce que le riz, ça fonctionnait pas bien, mais tu sais, l'avoir véhiculé durant le processus, bien, ça aurait amélioré les choses, tu sais. C'est vraiment un travail d'équipe à travers tout ça là, qui est important de faire, là, je pense.
Il ne faut pas oublier que l'entraîneur, c'est pas comme un mécanicien ou c'est pas comme un gars qui fait des kits de wrapping sur des 4 roues ou des skidoos. Je veux dire, les véhicules sont potentiellement tous pareils. T'es bon ou t'es pas bon. Là, on travaille avec des êtres humains qui font des erreurs, qui pour la plupart ne se connaissent déjà à la base pas. Fait, comment peux-tu penser que même avec les compétences de ton entraîneur, que ce dernier te connaisse comme il se doit pour que tu arrives sur le stage à ton ultime meilleur. Puis où je m'en vais avec ça, c'est que c'est pas parce que peut-être que tu n'es pas arrivé au top la première fois que tu as compétitionné que ton coach n'est pas bon. Peut-être. Parce que peut-être qu'un coach pourri peut, avec un coup de chance, te faire vraiment arriver sa coche. Puis un coach qui est excellent peut s'être trompé. Je veux dire, ça peut arriver. Mon conseil, ce serait de, si tu essayes avec un coach, puis tu es sérieux au niveau compétitif ou au niveau bodybuilding récréatif, personnel, fais-y confiance. Laisse-les se reprendre si ça ne va pas bien. Mais n'oublie pas que toi, tu as une part des responsabilités là-dedans, pas mal plus grande. Et ça, ça inclut faire ta job, donner du feedback, faire tout ce qui est en ton pouvoir, puis arrête de blâmer les autres. Mais faites confiance à votre coach, parce que la deuxième, peut-être même la troisième fois, là, il va vous gager comme fou. Puis là, vous allez l'avoir la recette qui, pour le moment, est la meilleure. Encore là, il n'y a pas de shortcut. Puis c'est quelque chose qui se fait avec le temps.
Mais ça, Hugo, c'est super important ce que tu dis parce que la seule affaire, je trouve, c'est que faut que tu regardes la réponse de ton coach par rapport au résultat. Si ton coach, tu sais, sur le stage, était flat, puis il fait comme « Ah non, t'étais à ton meilleur. » Là, t'as peur, on a peut-être un problème. Tu sais, là, le coach n'est pas réaliste, il n'est pas transparent. Tu sais, l'importance d'avoir de la transparence, c'est que le coach regarde faire une introspection puis faire comme « Ouais, c'est-tu quoi? » Honnêtement, on n'a pas carbé assez. On aurait pu aller bien plus carbé. On aurait pu... là, t'étais trop déshydraté, t'étais flat. Fait qu'on aurait pu te faire prendre un peu d'eau, faire rentrer les cards. Puis là, ça aurait looké super good. Fait que là, lui, s'il dit ça, c'est rassurant. Tu fais comme, ah, OK, avec qu'est-ce qu'il a vu ici, vers où qu'on peut s'en aller. Mais si ton coach, il te regarde, puis il fait comme, ah, t'étais super, super, mais t'as manqué. T'as-tu dit que t'as manqué? Non, c'était super bon. Mais t'as peut-être une discussion à avoir avec ton coach aussi. Là, parce qu'on n'est pas parfait. Tu sais, j'ai préppé un gars la fin de semaine passée. J'avais 2 semaines pour le prepper. Puis, il est arrivé vraiment... D'un, il était en retard, là, j'avais dit quand il est venu me voir. Mais, tu sais, à sa compétition, il n'était pas assez rempli parce que je ne connaissais pas son corps. Fait que j'ai été... J'ai fait, OK, tu sais, on a réussi à faire un carb-up à un moment donné. J'ai allé vraiment comme... j'ai été réservé dans mon carb-up. Il m'avait dit que carbait super facilement. Fait que j'ai carbé pas trop. Tu sais, j'étais un peu sur le break. Puis, j'ai réalisé que, fuck, il aurait fallu que je remplisse bien plus ça. Mais est-ce que ça fait de moi un mauvais coach? Ben non. Parce que je ne sais pas comment son corps réagissait. J'ai eu 2 semaines de me retourner de bord. Fait que là, à ce moment-là, c'était à moi de dire comme Big pour vrai, t'étais vraiment pas assez plein. On avait ça à faire. Puis là, le next time, on va savoir où s'en aller. Oh, OK, là, je suis rassuré. Fait que ça te prend un coach aussi qui est capable de faire une introspection sur son travail aussi.
C'est un très bon point, ça, exactement. Je suis bien d'accord. Tu sais, le coach qui veut tout le temps se défendre. Non, tout était beau, tout était parfait. Mais c'est parce que lui, il veut se justifier, puis il a peur que tu sois fâché contre. Mais c'est pas ça. Là.
Ben non.
Mais puis ça se peut aussi que l'athlète le prennent mal. Tu sais, des fois, « Colin, comment ça qu'il ne m'a pas fait faire ça? Je ne suis pas arrivé, j'ai donné de l'argent, j'ai donné du temps. » Puis c'est comprenable que l'athlète puisse être déçu. Puis peut-être que l'athlète peut se fâcher. Tu sais, je veux dire, c'est peut-être dans sa réaction à lui. Puis sur le coup, il est émotif. Puis tu sais, il y a une différence. Tu sais, ils disent « You can be mad, but don't be angry. » Tu sais, je veux dire, être mad, c'est quelque chose qu'on ne contrôle pas. Là. Je veux dire, là, tu n'as pas eu les résultats que tu voulais. T'as même pas été dans le premier call-out, là, t'es là, ah, comment ça, ça marche pas, là, t'es comme t'es mad, là, t'es pas dans l'état d'être rationnel avec ton coach. Mais t'as pas à être fâché à long terme, d'être angry après ton coach. Je pense que là, des fois, il s'impose peut-être un petit 3-4 jours si l'athlète n'est pas content, de dire écoute, pense à tout ça, mais j'aimerais ça qu'on se reparle, puis quand tu te seras reposé, quand tu vas avoir mangé, quand tu vas avoir comme. Un peu débriefer toi-même avec ça, qu'on puisse se reparler, tu sais, parce que c'est sûr que des fois, ce qui fait le bonheur dans le sport, ce qui fait le bonheur d'un fait le malheur de l'autre, c'est bien certain.
Toi, Frank, ça fait combien de temps que tu es avec Greg?
Tu as 6 ans, je pense. Ouais, je pense que ça fait 6 ans. J'ai eu 2 coachs dans ma vie. Ben, j'ai eu 3. Fait que, tu sais, je veux dire, à un moment donné, il faut que tu... J'aime pas le terme, c'est pas qu'il faut que tu donnes la chance au coach, mais il faut que tu donnes la chance au coach de connaître ton corps. Tu peux pas, comme que j'ai dit tantôt, tu peux pas arriver puis tu fais une compétition, oups, t'as fini deuxième, troisième, comme Hugo dit, puis il m'a manqué, je m'en vais. Mais non, c'est le temps de rester avec ce gars-là. Là, il a essayé des choses, ça n'a pas fonctionné, mais là, il sait sur quoi s'aligner. Si tu changes de coach à toi et toi, tu repars à zéro tout le temps. Le coach, il faut qu'il te. Qu'il te réévalue, il faut qu'il réapprenne à connaître ton corps. Ça, là, Greg, là, la dernière compétition qu'on a faite, on a eu notre recette pour vrai. Là, moi, j'ai de la misère à carber. Pour vrai, faut que je mange. J'ai mangé 20 000 calories là, en 2 jours, là, mais 25. Il a fallu que je mange en tabarnak. J'ai vraiment mangé. Mais je suis arrivé sur le stage. Backstage, j'ai fait un peu de biceps, un peu de chest. Puis j'avais mal tellement j'étais pompé. Tu sais, j'étais tabarnak. J'ai dit, Greg, faut que j'arrête. Je suis poigné. J'ai jamais eu ce feeling-là. Mais là, on avait atteint comme la perfection de ce qu'il fallait qu'on aille chercher. Ça fait combien de temps? Ça fait 6 ans que je suis avec Greg. Est-ce qu'il m'a déjà manqué? Non. Mais je suis jamais arrivé à mon plein potentiel. C'est-à-dire que j'allais toujours être un petit peu plus plein, un petit peu plus ci, un petit peu pas ça. Et puis, tu sais, ton corps, il change, comme on s'est dit, là, à un moment donné, dans le temps. Puis là, à ce moment-là, là, on a piqué dans le bon moment, on a, tout a bien été. Mais si j'avais été, c'est la première compétition, ma deuxième, j'aurais fait, non, bah, c'est quoi, fuck off, Greg, tu sais, j'ai fini deuxième au provincial. tu penses aller rechercher quoi avec un autre coach? C'est un point qu'il faut qu'on se pose tout le temps, parce que on le voit dans le bodybuilding, là, dans le fitness, il y en a un qui part, qui s'en va avec l'autre, il part avec l'autre, il revient. Maintenant, c'est comme, OK, mais c'est qui coach finalement? On ne le sait plus, tu mets pas la game. T'sais, regarde Félix, c'est qui son coach? Tout le monde le sait, Annie Rambot. Et combien de temps qu'il est avec? Des années. Pourquoi? Parce que ça fonctionne bien. Maintenant, la chimie prend le dessus, puis ça devient aussi un de tes chums. T'sais, moi, Greg, c'est un de mes meilleurs chums, là. Parce qu'à un moment donné, il faut tellement que tu sois proche de ton coach en prep, que tu dises tout, que tu sais comment tu te sens, puis tout ça. Moi, j'ai cette relation-là avec Greg. Bien, c'est que quand je suis en prep, il sait très bien comment est-ce que je suis mentalement. Fait que quand j'arrive en compétition, sur le stage, il sait comment me parler, il sait quoi me dire. Fait que, tu sais, ça, c'est super important, mais tu ne prends pas ça en changeant de coach à tous les deux mois, là.
Ouais, puis en tant qu'entraîneur, je pense que c'est toujours bon de se méfier de la personne qui vient te voir et qui est comme « Moi, je suis allé voir lui, c'est tout des pas bons, ils sont pas bons, mais toi, ça a l'air que t'es bon. OK. Ça, ce client-là, potentiel problème. »
C'est ça le syndrome du chevalier sur un cheval blanc. C'est comme, t'attends toujours le chevalier qui va venir te sauver, tu sais, fait que t'es comme « Ah non, là, c'était pas la bonne personne. Là, avec lui, là, je vais... Ça va être la bonne affaire. Puis là, tu sais, tu fais juste hop d'une personne à l'autre. Tu sais, puis je pense qu'il y a beaucoup de monde dans le fitness. Mais tu sais, en général aussi, tu sais, même dans le monde des coachs de peu importe, là, tu sais, des coachs, mettons, de vie ou des coachs de business, whatever, là, tu sais, tu vois du monde qui essaye plein d'affaires, puis il essaie de trouver la personne qui va faire en sorte que ça va finalement marcher leur affaire, mais ça part tout de l'interne, tu sais, au bout du compte.
Ce qu'ils disent pas des fois, c'est qu'à 7 weeks out, ils sont claqués une boîte de céréales de Lucky Charms avec un 2 litres de lait, puis ils sont allés broyer parce qu'ils trouvaient ça dur. T'sais. Après ça, c'est la faute du coach, mais ouais, c'est ça.
C'est-tu une vraie histoire, ça, je me souviens
pas? Ouais, ben.
Ouais. ça me dit quelque chose, ça, me semble.
J'ai jamais dit, mais il me semble que ça me dit quelque chose.
Ouais, c'est ça qu'il est arrivé quelque chose de vrai. Ouais, c'est bon. All right, je pense qu'on a fait, le tour, une heure et demie quasiment. Merci les gars d'avoir été là, c'était cool.
Merci à toi, Jake, pour vrai, c'est super le fun, ce podcast-là.
Merci aux gens qui ont écouté. Si vous avez écouté, n'oubliez pas d'aller faire 5 étoiles sur iTunes, vous abonner sur la chaîne YouTube, liker la vidéo, faites la petite clochette pour ne rien manquer. Puis les gars, ben, vous pouvez les suivre sur Instagram. Dans le premier podcast, ils ont dit leur tag. Fait que, allez voir ça si vous n'avez pas vu. Puis c'est ça. On vous souhaite une bonne journée. Bonne journée, messieurs.
Bonne journée, puis merci beaucoup. À la prochaine.
Vas-y. Bye.